démarre avec nos invités. Le sujet aujourd'hui, c'est l'Ebola, le virus qui est en train de décimer le continent, avec des invités parmi lesquels surtout un médecin qui va nous aider, vous et nous, à vraiment comprendre quelque chose dans ce drame en Afrique de l'Ouest, en espérant que ça ne va pas s'étendre à d'autres parties du continent. Et l'équipe, moi, Paul, que certains d'entre vous, peut-être la voix dit quelque chose à certains d'entre vous, et voilà, Hortense, la voix doit dire aussi quelque chose à quelques-uns parmi vous. Hein. Bon, bonjour Hortense.
Bonjour Paul.
Voilà, on a la table. Makaïla, je crois que c'est quelqu'un que quelques-uns parmi vous ont déjà entendu, la voix blogueur. J'allais dire émérite, enfin, qui a vraiment, enfin, hein, vous connaissez, je crois, il y a quelques années, là, surtout, il vient de, vraiment, la dictature tchadienne a voulu vraiment sa peau. En attendant, nous l'avons encore là, il l'a pas encore, elle l'a pas encore, la dictature tchadienne n'a pas encore sa peau. La preuve, on l'a là, enfin, en chair, en os, vous l'entendez tout à l'heure. Et puis, nous avons quelqu'un qui a quelque chose à dire sur ce sujet, surtout qui s'occupe beaucoup de la géopolitique. Il est intéressé par ça. C'est notre ami, ça se prononce Jiel
Hamid.
Jiel Hamid, d'accord.
Hamid, éditorialiste également.
D'accord, merci. Bonjour, docteur. C'est surtout...
Bonjour, Paul.
C'est surtout à toi, docteur, qu'on va... C'est surtout, tu vas avoir de boulot parce que.
Ben, c'est un honneur pour moi. Je...
Voilà, voilà. J'aime que ça. Les gens qui n'ont pas peur du boulot, même s'ils doivent faire la moitié tout seul, ils n'ont pas peur. Ça, c'est ce qu'il nous faut, ça, en Afrique, ça. Les gens qui acceptent de se sacrifier, ça, il le faut parce que ça s'impose. Merci, docteur. On parlera, vraiment surtout l'Ebola. Si, il nous en reste le temps, on parlera peut-être d'un mot sur ce qui, en ce moment, sur le continent, et, le problème, c'est, endémie de tripatouillage, vraiment des conditions pour rester à vie. Ils oublient même qu'ils sont mortels, les dictateurs africains. Mais sauf que ça, un jour, ça leur arrive. Voilà, on va. Ce que vous allez entendre, je crois que beaucoup d'entre vous ont compris que c'était Fela, j'allais dire continental et international. Vous savez, bon, voilà.
Afrobeat. Le king voilà, de l'Afrobeat.
Voilà, c'est ça. Voilà, qui est vraiment, je crois qu'il se confond avec ce concept. Lui et ses enfants, d'ailleurs. J'ai quelquefois écouté ses enfants. Je crois qu'ils ont,
c'est bien c'est comme le fils, ça. Le fils de son père.
Hein. Filles, oui, oui, voilà, 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 on pense. Voilà, c'est pas mal quand même que, comme ça, tout ce qu'il a, ce pourquoi il s'est battu, il a perdu son frère, sa mère dans l'affaire. Et ce que j'apprécie en lui, vous aussi j'espère, c'est qu'il n'a pas décroché, il ne s'est pas laissé intimider, il est allé jusqu'au bout de l'engagement. Ça manque beaucoup sur le continent et il nous faudra dans les 2 ou 3 millions de gens comme ça et quelques autres Mandela pour changer peut-être l'image du continent. À tout honneur, voilà. Hortense, c'est pas tellement parce que. C'est pas l'honneur, c'est pas la politesse, c'est parce que je te fais c'est parce que l'émission, il faut que quelqu'un commence et prenne responsabilité.
Ben c'est ça, je les prends volontiers.
Voilà, on va commencer donc tous les samedis comme matin avec quelques brèves. Là, Hortense, tu en as.
Bien merci Paul. Alors nous allons démarrer avec un drame sur le continent, ce qui s'est passé dans le domaine du sport en fait. Nous allons parler du football avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Je crois que quelques-uns ont entendu parler. Donc l'Afrique du Sud est sous le choc après l'assassinat de son capitaine Senzo Maïma, un jeune de 27 ans qui a été lâchement assassiné par des cambrioleurs. Il est en train de passer du temps avec sa petite amie et quelques membres de sa famille. Donc il y a des voleurs qui sont arrivés, qui les ont braqués parce qu'ils voulaient tout simplement des téléphones. Malheureusement, il y a une bagarre qui a éclaté et au cours de cette bagarre, il a reçu un coup de feu, oui. Une arme, et oui. Il est décédé. Donc c'est une nouvelle très triste, d'autant plus que ce jeune homme venait d'être promu capitaine de l'équipe de l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, qui sont bien partis pour la qualification de la CAN 2015. Donc c'est un véritable coup dur pour cette Absolument. Équipe nationale et pour ce pays, et voire même pour le continent, hein, qui une fois de plus est frappé très dur. Voilà. C'est pas parce que c'est un individu, mais ça fait partie d'une famille, hein, c'est la famille du football, la famille de la politique africaine. Donc honnêtement, ça a été assez dur pour ceux.
Il avait encore disputé la veille.
Un match. Voilà, avec son club Orlando. Absolument. Le club qu'il a, très jeune d'ailleurs, qu'il a intégré ce club à l'âge de 13 ans.
Et malheureusement, l'Afrique du Sud, j'allais dire, s'américanise avec les ports d'armes, les armes. On tue comme on joue. Voilà. Deuxième brève.
Alors, la deuxième brève, elle est un peu plus gaie. Je ne sais pas pour qui elle sera gaie. Gaie pour celui qui s'en va, c'est-à-dire Abdou Diouf qui va quitter le secrétariat général
dans un mois
de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et cela aura lieu au mois de novembre. Donc la course est lancée pour la succession d'Abdou Diouf à la tête de l'OIF, et l'élection aura lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Dakar au Sénégal, donc à fin novembre. D'ores et déjà, la bagarre, c'est peut-être le cas de le dire, mais je préfère dire la bataille, pour lui succéder Ferrache. Donc on fait acte de candidature, il y a Henri Lopez est un très grand écrivain africain, qui est très connu d'ailleurs. Il est en même temps un ancien premier ministre de la République du Congo-Brazzaville. Et actuellement, il est ambassadeur du Congo. À Paris. Et il y a aussi un autre, un ancien, c'est Pierre Buyoya. Je crois que ce nom dit quelque chose à plusieurs. Ouais. C'est un Burundais, voilà.
Ouais, ancien président du Burundi.
Tout à fait. Alors, qui fait acte de candidature aussi. Et en même temps, il y a une femme. Honneur aux femmes quand même. Je termine par elle, j'aurais dû commencer malheureusement, je m'en excuse. Alors, cette femme, c'est Michaëlle Jean. Alors, Michaëlle Jean, c'est une ancienne gouverneure générale du Canada.
Elle est d'origine
haïtienne, de nationalité québécoise et mariée à un Français. Absolument. Donc, cette femme aussi veut briguer le secrétariat général de la francophonie. Alors, ce que nous allons faire, nous, s'y attendre, parce que là, maintenant, la campagne bat son plein. Oui. Et chacun de son côté entre... Il y a un qui a décidé de ne pas faire campagne, c'est Henri Lopez. Il a dit non, c'est pas la peine. Le système, les rouages de la francophonie, l'intérieur, je le connais. Il dit, Abdou Diouf, il a pas fait de campagne, il a remporté. Alors, ça sert à rien, parce qu'en réalité, ce sont les chefs d'État qui élisent. Oui. Donc, pourquoi faire campagne? Autant attendre le jour J, quand la réunion aura lieu et que les chefs d'État seront là. Et ben, ce jour, le leur dirai de quoi je suis capable et on verra bien si c'est Henri Lopez qui sera élu. Alors vous me demandez ma préférence vers qui ? À personne du tout, parce qu'il y a un problème qui se pose, c'est que les Africains auraient dû présenter une candidature unique, mais une fois de plus, minée par les sempiternelles querelles politiques, ils n'ont pas pu le faire. Bon, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est fort possible que le secrétariat aille à un autre, au Canada par exemple, et ce serait vraiment dommage pour le continent, d'autant plus que c'est lui qui comporte le plus gros contingent de francophones.
Autant dis donc, Hortense, que c'est éminemment politique.
Absolument. Absolument.
On se mettra tous à l'accent québécois et puis ça va.
Voilà. Et puis il y a d'autres candidats, c'est l'estrade de Morline Maurice.
Voilà, tout à fait.
Et puis Traoré du Mali, à qui son gouvernement, semble-t-il, lui demande de se faire oublier. Ça arrive, c'est la preuve que la politique va beaucoup jouer dans cette affaire-là. Et que la francophonie, contrairement à des promesses qu'on a faites, surtout que les Africains ont cru, ce n'est pas quelque chose qui va se terminer demain. La preuve, ça se prépare pour repartir. Voilà. Moi, j'ai deux petites choses. Ça va, je vais être rapide. Ce qui est dans l'actualité aussi, les fanatismes religieux. Vous savez, les deux attentats au Canada, où on vient de parler de Madame Jean, et comme aux États-Unis. Je vais dire que on dirait que maintenant, pour faire le crime, il faut se convertir à l'islam. Surtout que maintenant, on convertit même par téléphone, texto. J'avoue que et puis les gens disent, bon, téléphone, ok, tu es musulman à partir maintenant, donc tu peux aller commettre... j'espère que c'est pas ça, parce que la hache aux États-Unis, le gars venait de... Enfin, il préparait, au Canada, il préparait, c'est parce qu'on l'empêchait de partir, se combattre au Proche-Orient. Bon, il a dit, je fais sur le coup, et puis il est tenté surtout au Parlement canadien, et il voulait faire le massacre, et je crois que le policier qui l'a empêché de le faire est devenu une espèce de héros national, parce que il a été plus rapide, il a descendu avant qu'il ait émis en exception ce qu'il voulait faire. C'est très inquiétant, on y reviendra, ça fait des sujets d'actualité assez graves, on y reviendra. Deuxième brève, je voulais avoir qu'on ait une pensée pour cette petite malienne morte de ce dont on va parler tout à l'heure avec le docteur. Alors c'est à Lovor, c'est sa grand-mère qui l'amène au Mali. C'est vrai que personne n'avait expliqué à la grand-mère que il lui fallut rester au moins un mois. Rester un mois là où les parents de la petite sont morts. Malheureusement, elle a pris son... Comme on l'a fait d'habitude, elle dit, bon, comme il n'y a plus de parents, je l'amène avec moi, ma petite fille. Malheureusement, elle ne pouvait pas, surtout, elle ne pouvait pas savoir que l'enfant, que ce qu'elle faisait, c'était grave, qu'à partir de l'enfant, malheureusement, le Mali pouvait être sérieusement touché et elle est morte. C'est voilà des choses comme quoi dans cette affaire-là, on dira tout à l'heure, docteur, que la communication vraiment vraiment expliquer aux gens que ce qu'il faut faire, ne pas faire n'importe quoi, oublier. Je sais que c'est très difficile. Quelqu'un que j'ai toujours embrassé, on m'a dit de pas embrasser. J'allais toujours chez ma fille ou chez ma grand-mère. On me dit ne plus y aller. Je comprends que pour un Africain, comment je veux pas voir ma grand-mère? C'est une question de vie ou de mort. Mais cela dit, c'est pas évident pour les gens.
Et puis pour compléter aussi, concernant les actes terroristes au Canada, il y a eu la même chose en Tunisie, hein, avec 5 femmes et 2 hommes. On voit bien aussi comment les médias européens montrent des images à géométrie variable. Oui, on parlait que du Canada et des États-Unis, alors qu'il y a aussi la Tunisie qui est subie de plein fouet.
Absolument.
Et j'en profite pour
dire, préciser en tant que
pays chrétien, je suppose, la Tunisie.
Oui, on peut en profiter pour dire d'ailleurs que dans le drame...
C'est pour dire simplement que ceux qui subissent les terroristes sont d'abord les pays.
Absolument, bien sûr, absolument.
Ce sont les premières victimes.
Oui, ce sont les premières victimes, tout à fait.
C'est ce que j'allais dire,
c'est tout à fait vrai.
Malheureusement, on oublie que c'est les premières victimes...
Du terrorisme.
Peut-être, je suis de ceux qui sont étonnés que très souvent, j'aime pas l'expression, ce qu'on appelle les musulmans modérés. Ça va très loin. Il faut avoir 3 heures pour expliquer ce que je veux dire.
Exactement.
Qui ne montent pas, que les officiels de l'islam ne montent pas au créneau spontanément et fortement pour dire ça. Les lâches qui prennent l'alcool pour passer à l'acte et ils se convertissent pour faire ce qu'ils voulaient faire.
Absolument. Oui, non, vous savez. Parce que le jeune dont tu as parlé tout à l'heure du Canada, ses parents disent qu'il était un peu névrosé, le garçon. Absolument. C'est pas quelqu'un qui était.
Ce sont des fanatiques et des barbares.
Est-ce qu'il s'est converti ou on l'a converti? Il faut se poser la question aussi. Ouais.
Je me demande si c'est pas
la même chose.
Je me demande si c'est pas la deuxième hypothèse.
Est-ce qu'il connaît la religion déjà?
Encore. C'est récent parce que déjà il avait un père libyen, une mère. Donc à la base, on aurait dû dire qu'il était musulman, mais si s'est converti, ce qu'il ne l'était pas. Absolument. Donc, compte tenu du fait que c'est quelqu'un qui était un petit peu déséquilibré, qui n'était pas bien dans sa peau, il allait chercher un recours, mais un recours strictement négatif qui l'a amené à commettre ces attentats. En réalité, c'est pas un pratiquant, en fait.
Heureusement que tous les convertis à l'islam ne font pas ça.
Heureusement.
À commencer par l'ancienne chanteuse de rap, là. Comment elle s'appelle?
James.
James. Elle est d'origine grecque, paraît-il. Heureusement qu'elle ne nous a pas explosé.
Elle est chypriote grecque. Elle est chypriote grecque.
C'est le même peuple. Heureusement qu'ils ne nous ont pas encore explosé. Chypre et Chypre aurait pu être une île.
Et puis on peut parler de
jusqu'à Ionie, l'Anatolie, tout ça, c'est.
Africa, Mama Africa, we must all rise, sing together to fight Ebola. We are Project Ebola.
We live in a world, my people, full of uncertainties. No security, everything be possible. It could be your mama, your papa, brother, your sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. What kind of world we live in? Full of uncertainty. No security. Everything be possible. It could be your mother, your father, even your sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. From Liberia to Nigeria,
from Guinea to Sierra Leone, take precaution, be safe.
Mama Africa, it could be your mama, your brother, sister, your father. Let's start together. Mama Africa,
God bless Africa.
We must all arise.
Lord have mercy.
Let's stand together.
Ebola virus named after a river in Congo, where the disease was first discovered in 1977. It spread through direct contact with the blood of an infected person. through contact with needles and other infected objects of persons, and also contact with infected animals, possibly by eating infected meat. Symptoms of Ebola include fever, headache, joints and muscle pain, followed by vomiting and severe diarrhea, rashes, internal and external bleeding. Ebola has no cure. Infected person must be isolated, or infection may spread to others. If you know anyone exhibiting the Ebola symptoms, do not wait. Ensure that person is taken to the nearest hospital for tests to be done. As of July 27, 2014, Ebola has claimed the life of over 670 people in West Africa and is now threatening the lives of health workers. If reported early, a sick person will be treated. Ebola has 10% survival rate. So let us all take action now. Africa.
From Liberia to Nigeria.
From Guinea to Sierra Leone. Take precaution. Be safe. It could be your mama, papa, brother or sister. Take precaution. God bless Africa.
Alors là, nous venons d'écouter George Weah dans son dans un titre intitulé George Weah Project for Ebola. Donc cela nous permet de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans Forum Africa, la première de la saison. Et nous avons en face de nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme Paul vous l'a dit tout à l'heure, le docteur Guy Allevor, qui est médecin spécialiste, légiste et expert, et qui nous permettra aujourd'hui de comprendre ce que c'est que cette maladie, c'est quoi son origine, quels sont les symptômes et quelles sont les perspectives d'avenir pour cette maladie. Alors, docteur Allevor, nous vous passons la parole. Ebola, qu'est-ce que c'est qu'Ebola? Quelle est l'origine de cette maladie qui sévit actuellement sur le continent?
Bien. Et comment on en est arrivé là?
Je pense que le mot Ebola, si j'arrive à le prononcer en lingala comme il faut, est un mot trop beau pour être associé à un virus aussi dangereux. C'est pour cela que le docteur Yves Ekoyamaizo et moi, nous avons fait une étude quasi exégétique sur cette maladie, ce virus, et nous proposons à la communauté scientifique mondiale pour que le débat soit clair et qu'on ait une définition claire de ce dont on parle au sens aristotélicien du terme. Le propre, c'est-à-dire qui n'est applicable de manière exclusive qu'à la notion qu'on veut faire passer. Il faut l'appeler de son véritable nom, le virus Marburg. Marburg virus. Pourquoi? Parce que le phénomène inaugural qui a entraîné ce qu'on a appelé de manière un petit peu pour distraire et induire en erreur même les savants les plus versés dans la biologie moléculaire, la famille des filoviroïdes, ne se résume qu'à un seul et même virus qu'on manipule de manière d'ailleurs fallacieuse, parce que c'est un jeu d'enfant. C'est comme des grilles d'accords d'une guitare. À chaque fois que vous avez une association de trois éléments d'acide nucléique, vous avez ce qu'on appelle un codon. Et vous pouvez, il suffit d'enlever un et vous déséquilibrez tout et vous avez un nouveau virus. Vous en rajoutez un, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec.
Ça se fait dans les laboratoires chimiques, dans les laboratoires.
Mais c'est un jeu d'enfant. Oui. Qu'on arrête de mystifier le monde. Et on en arrive aujourd'hui, c'est le CDC qui le dit, qu'on a plus de 395 sérotypes. Je dis non, c'est pas 395 sérotypes. Oui. C'est 395 d'acide nucléique, de nucléotides que je viens de vous expliquer. Là, ce n'est même pas cette note élémentaire de la gamme diatonique. Hein. 4 à 5 éléments qui sont associés par groupe de 3. En vérité, comme il s'agit d'un virus à ARN, acide ribonucléique, en fait, on fait une combinaison de 3 sur 4. Les arithméticiens pourront dire ce que ça donne. Ça fait 4 puissance 3, ça fait 64 possibilités. Et c'est avec ça qu'on joue. Voilà, il n'y a pas plus de ça. Alors que dans la musique, c'est des milliards et des milliards de possibilités. Voilà, en fait, les possibilités en matière de biologie moléculaire n'excèdent pas 64 notes.
D'accord.
Voilà, il ne faut pas mystifier le monde. Le jeu est comme ceci. Bien, donc il faut appeler ce virus pour que nous puissions, lorsque nous parlons de fièvre hémorragique, dû à des filoviridés, qu'on ne parle pas de Marburg, de Reston, de Zaire, de Thaï, de je ne sais XY, de je ne sais où. Non, il s'agit d'un seul et même virus qu'on manipule à loisir pour le rendre plus ou moins dangereux et méchant selon l'objectif qu'on se fixe. Au point où aujourd'hui, l'apprenti sorcier lui-même ne sait plus maîtriser son truc.
Absolument.
Je mets au défi ceux qui disent qu'ils ont un vaccin de nous le sortir. Quand on a 95 sérotypes,
je l'ai dit à moult reprises, je l'ai écrit.
Jusqu'alors, personne ne m'a apporté
la contradiction. Celui qui l'apporte, sa réputation va être mise à l'eau. Voilà la vérité.
S'il y a un savant au monde qui est sûr de ce qu'il dit, moi je me tiens dans la vérité. Qu'il vienne de deux choses l'une. Et d'ailleurs, il y a trois catégories de savants en la matière. Il y a les savants de bonne foi, qui espèrent trouver quelque chose d'original, en allant cherchant des pouces dans la tonsure de l'Afrique, pour trouver le réservoir de virus qui n'existe pas, pour décrocher peut-être un prix Nobel. Il l'aura jamais. Il faut qu'il fasse autre chose. Il est de bonne foi. Celui-là, il faut l'aider pour lui dire, monsieur, vous êtes sur la mauvaise voie. Faites quelque chose de plus efficient et rentable pour vous. C'est mieux. Deuxième catégorie, c'est celui qui espère trouver quelque chose pour servir une cause. Celui-là, il faut se méfier de lui. Et la troisième catégorie, c'est le méchant. Il sait que ça n'existe pas. Il a fabriqué son virus en laboratoire. Et il est en train de chercher un animal en Afrique à même de constituer le réservoir de virus à vie, de manière à ce que, même si on détruit les P4, le truc puisse se perpétuer.
Ressurgir au bout
mais il n'est pas donné
temps
à l'humanité d'ajouter un seul iota à la création. Voilà la vérité.
Mais c'est ce qui se passe là maintenant, parce que la première apparition de ce virus fut en 1967 au Congo, près de cette fameuse rivière dite Ebola.
Ouais.
Et 20 ans plus tard, on l'a vu apparaître au Gabon et en Ouganda aussi.
Bien sûr.
Comme vous le dites, le réservoir, c'est un réservoir animal dont les pathogènes...
Quel est le nom de cet animal, madame?
Ils nous disent que c'est une chauve-souris, nous dit-on, soit un chimpanzé.
Est-ce qu'ils ont apporté la preuve de ça, celui qui dit ça?
La dernière en date, c'est-à-dire en Guinée forestière, la première personne fut une femme dont le mari était chasseur. Ils disent que ce mari a ramené une chauve-souris. Il était chasseur. Il a ramené la chauve-souris morte ou vivante. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui nous a été dit, c'est que la chauve-souris, on l'a emmenée. Elle a cuisiné. Ils ont mangé. Et c'est de là qu'est parti.
Exactement.
Donc, ils sont morts.
Est-ce que vous croyez, madame, qu'une chauve-souris cuisinée, c'est à quelle température?
Mais c'est la question que, effectivement, moi, j'ai voulu poser. Je dis, je sais qu'à 120 degrés, les microbes sont morts, me dit-on. Alors, est-ce que c'est la différence entre un microbe et un virus? Parce que est-ce que le virus meurt à une température élevée?
On n'a même pas besoin d'atteindre 100 degrés pour qu'un virus soit détruit.
Donc,
c'est celui qui dit ça, deux choses lui. Soit il est idiot, il réfléchit pas bien. Soit il veut mentir en commençant par se mentir à lui-même jusqu'à ce qu'il soit persuadé de son mensonge. Faut arrêter un peu.
Le fait que ça a apparu il y a quelques années en Afrique de l'Est, en gros, et que brusquement on le, avec des guillemets, le, parce que c'est pas forcément le même, en Afrique de l'Ouest. Comment expliquer cela?
Voilà. Oui, je vais dans le même sens que
voilà,
Paul.
Si tant est qu'il y a un réservoir animal en Afrique.
Voilà.
Avant que le mal ne passe de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, il faut qu'il y ait une propagation de proche en proche.
Voilà.
Le Nigeria, le Bénin, le Togo,
il y a au moins 4-5 pays,
le Ghana, la Côte d'Ivoire et puis la Guinée. C'est comme ça que ça doit progresser.
Oui, parce
nos
que quand
animaux
elle a fait
sauvages
son...
ne passent pas par les airs. Ce sont des animaux
terrestres. Voilà. Parce que quand il y a eu l'apparition au Gabon il y a quelques années, normalement le pays voisin, on connaît que les frontières en Afrique sont poreuses. Hein. Je veux dire, le Gabon, quand vous êtes au sud du Gabon, vous êtes au Cameroun. Mm-hmm. C'est à pied, les populations, elles sont inter...
Je vais vous dire une chose.
Voilà, dans la question, interdépendante. Dans la question que je pose,
je vais vous dire une chose.
Si elle était au Gabon...
Est-ce que vous connaissez bien la carte de l'Afrique?
Vous pourrez le dire un petit peu quand même.
Bien.
Oui.
Regardez là où se trouve le fleuve Ebola.
Oui.
Regardez là où se trouve le centre du patient zéro de l'épidémie actuelle. Vous allez voir une chose. Ils pensent qu'ils sont malins, mais on les voit. Regardez ceci. La fleuve Ebola est dans une zone à cheval entre trois pays. L'Ouganda, la RDC, à l'époque le Zaïre, et le Soudan du Sud. À l'époque, c'était le Soudan tout court.
L'ancien Zaïre et le Soudan.
Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez là où l'enfant de 2 ans a été inoculé, c'est un crime. Cet enfant habitait dans une situation exactement en étoile pareille que ce que je viens de dire, entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. Vous voyez?
La petite fille dont on parlait
voilà.
tout à l'heure. Oui.
Vous savez, la main de l'homme ne peut pas faire des choses semblables à la nature. C'est impossible.
Pendant que, au mois d'août, quand cette maladie est apparue en Afrique de l'Ouest, en Guinée, il y a eu un léger épisode qui est réapparu au Congo. Mais ça n'a pas fait long feu parce qu'il y a 2 personnes qui sont mortes, je crois 8, et stop, c'était fini. Alors la question qu'on s'est posée, c'est comment...
Il n'y a pas eu que le Congo, il y a eu aussi l'Ouganda.
Oui, je dis pas...
la Guinée dis, aussi. Non,
je parle de maintenant, je parle pas d'autrefois.
Dans l'épisode actuel.
Absolument. Alors la question que je me pose, c'est comment ça s'est fait, d'autant plus qu'on dit que c'est des populations, mais comment le Congo et l'Afrique de l'Ouest, entre nous, les frontières sont quand même assez éloignées. Je veux dire, quelqu'un qui se trouve en Afrique de l'Ouest ne va pas facilement se retrouver au Congo. Comment se fait-il que ce virus qui était en même temps en Guinée, on la voyait apparaître et que c'est très étrange parce qu'elle a disparu au bout d'une semaine, je crois deux semaines, c'était fini au Congo. Et maintenant, elle est restée. Parce que si on peut appeler ça comme ça, son foyer naturel, c'est la région de l'Afrique centrale. Hein,
Non, je me permets de vous reprendre. Il n'y a pas de foyer naturel de ce virus.
Oui, ça paraît, ça plaît l'apparition.
Son foyer naturel, c'est le laboratoire P4. Si vous voulez, je vous donne la liste à la fin de l'intervention, enfin de l'émission.
Et puis juste pour ajouter, on a vu hier dans le Parisien un article dont on parle d'un village en Guinée qui n'est pas touché par Ebola. Donc on avait parlé d'un village miraculé. On voit bien comment le virus n'a pas de lieu d'identification.
Je crois que c'est pas seulement une question de village. Il y a même des hommes qui ont attrapé, qui sont guéris sans que on leur donne les machins expérimentaux, machins comme ça, qui sont guéris. Ça, je crois que ça existe quand même, que les gens échappent pour des raisons.
Quand je dis qu'il n'est pas donné à l'humanité de rajouter un iota à la création, le virus, quand ça éclate dans les épidémies mystérieuses qui sont en réalité des épidémies artificiellement provoquées, au bout de 6 mois, si ça continue, le virus perd de sa virulence. C'est-à-dire au début, ça tue autour de 80-90% des malades. Et avec le temps, ça ne tue quasiment plus.
On le voit avec la grippe, quand le virus de la grippe, quand elle démarre,
c'est-à-dire que les anticorps.
Oui, et au fur et à mesure, elle regresse quand même. C'est un peu la même chose. Est-ce que c'est pareil?
Ce n'est pas exactement la même.
C'est pas exactement la même chose.
Les anticorps s'adaptent, c'est ça ce que vous voulez dire en fait?
Non, ce n'est pas que les anticorps s'adaptent.
Makaïla.
Les anticorps, c'est le patient qui. Parce que les anticorps, c'est contre les protéines qui sont sur la coque du virus. Hein. Si vous voulez, on peut parler de la structure du virus par la suite. Et ces anticorps protègent, d'après ce qu'on sait. Ça reste à vérifier parce que tout est à vérifier sur cette question à vie. C'est pour ça que je dis et je le redis encore aujourd'hui, le ZMAP, la propriété intellectuelle du ZMAP revient aux médecins zaïrois. C'est moi Guy Alouvo qui le dit. Si le laboratoire qui l'a fabriqué n'est pas content, il n'a qu'à venir me voir.
Donc ça a été fabriqué où, vous me précisez?
Ce sont les médecins zaïrois qui en 76 ont pour sauver des malades.
Arrêtez-le.
Pour compenser les pertes sanguines. C'est ça la fièvre hémorragique.
Oui.
Des malades n'ont pas trouvé de solution de don de sang. Et donc, par exemple, dans une famille, parce que jusqu'aujourd'hui, ça se pratique comme ça.
Oui.
Tu viens donner un petit peu de ton sang pour qu'on prenne un paquet en réservoir dans le machin pour compenser. C'est-à-dire, on ne te fait pas une transfusion si quelqu'un de ta famille ne donne pas en contrepartie. C'est du donnant-donnant.
Oui.
Parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter.
Absolument. Puis,
voilà, c'est comme ça que la transfusion sanguine se fait en Afrique encore aujourd'hui.
C'est presque.
Ça a ses avantages et ses inconvénients.
C'est presque la débrouillardise.
Voilà, la débrouillardise.
Pardon.
Et en faisant ça, les médecins africains, puisque souvent le mal se déclare dans des familles, le rescapé qui dit, ben moi, au pire, je vais lui filer encore mon virus. Et ils s'aperçoivent qu'une fois sur deux, quand on prend le sang de quelqu'un de guéri et qu'on l'injecte à quelqu'un qui est malade, il est sauvé.
Oui, tout à fait.
Voilà. Makaïla. Voilà.
Vous avez compris?
Donc, je dis, donc merci à Forum Africain et merci également à Hortense et à vous d'associer à un tel débat. Docteur Guy Alvor, que je connais bien et qui est en train aujourd'hui de nous montrer que effectivement la thèse qu'il est en train de développer est une thèse très importante pour éclairer l'opinion africaine et l'opinion mondiale. Il est vrai, dans cette affaire des virus Ebola, il y a beaucoup de zones d'ombre qui, du point de vue africain, il est difficile de cerner. Heureusement, on a parmi nous également ici, à ces plateaux-là, Docteur Guy Alvor, qui effectivement a démontré une fois de plus qu'ils vont essayer de présenter à la communauté scientifique le travail qu'ils ont mené avec un de ses collègues pour démontrer pourquoi on est arrivé à ce niveau. Effectivement, les uns et les autres, quand je vous ai entendu parler, la vitesse de délocalisation d'une maladie qui s'est trouvée en Afrique centrale et qui s'est subitement retrouvée en Guinée et qui fait au jour d'aujourd'hui 10 000 morts, il y a de quoi être interpellé. Et donc, heureusement que parmi nous, en Afrique, on a des médecins compétents. Et qui, malheureusement, au niveau international, les gens ne veulent pas, je dirais, écouter, tout simplement parce qu'il y a des enjeux. On ne sait pas pourquoi l'Afrique soit la cible d'une maladie aussi extrêmement dangereuse qu'Ebola. Aujourd'hui, les Africains se butent à c'est les autres qui traitent, qui viennent en intervention aux Africains.
Mais on va revenir, ce sera une partie de notre débat, Makaïla, parce que là, on revient au niveau du docteur Guy Alvor, qui vous nous avait expliqué que ce virus n'est pas, comme on le dit, arrivée par le fait qu'il y ait eu soit ramassage ou contamination entre un primate et un être humain. Mais non, c'est que ça a été fabriqué dans des laboratoires, comme vous le dites, et à la limite inoculé quelque part pour que les humains puissent, parce qu'on nous dit même que il suffit que un animal soit dit atteint de ce virus, et ce qui est très étrange, c'est que il y a des animaux, dit-on, qui sont des porteurs, mais porteurs sains, c'est-à-dire que eux ne développent pas la maladie, mais peuvent vous la transmettre, et sous prétexte qu'ils ont des anticorps adaptés pour. Et il suffit que ces animaux-là touchent un fruit, et que vous, êtres humains, alliez peut-être, je sais pas moi, dans la campagne, et que vous touchez le même fruit, top, c'est parti pour la maladie. Nous pouvons en déduire, conclure avec vous aujourd'hui que le virus Ebola n'est pas ce qu'on veut nous faire croire, mais c'est une invention purement humaine. Voilà. Alors nous voulons.
Et à l'appui de ce que je dis, pour vous dire une chose, il faut que l'Afrique, les Africains et même les hommes de culte, pasteurs, évêques, prélats et autres, même imams et tout ça, arrêtent de penser qu'on a fait quelque chose contre le bon Dieu. Et qui nous est envoyé.
Mériter un tel sort.
C'est vrai, c'est impressionnant. Je dis qu'il s'agit d'un empoisonnement entre frères consanguins.
On est un peu
c'est
dans la
d'autres hommes qui font ça à d'autres hommes. C'est des hommes qui font ça à d'autres hommes. Il faut arrêter de mêler Dieu à ça. Bien. Sachez ceci.
Oui.
Depuis 76 que les expérimentations sordides sur cette affaire ont commencé à l'Afrique, il y a eu pas moins de 7 campagnes de ratissage large d'animaux sauvages, depuis des animaux aussi élémentaires que des arthropodes, c'est-à-dire des petits insectes.
Des frugivores aussi, comme ils appellent.
Oui, les frugivores, c'est...
Donc, alors, ces fameux chauves-souris.
Voilà, avant d'arriver il y a plein de trucs.
Oui.
Les simulis, c'est des espèces de moustiques qui piquent, qui transmettent d'autres formes de maladies. Des punaises, des criquets, tout, enfin, jusqu'au grand... Les animaux. Il y a même eu une campagne, il y a eu même des vaches, des chiens. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des milliers d'animaux. On fait ce qu'on appelle un broyat virologique. On écrase tout. Tout ce qu'il y a sur l'animal, on écrase tout. Et on prend des petites pattes qu'on met en culture sur du rein de singe vert.
Oui.
Ce qu'on appelle une culture virale. À la recherche de Ebola. Enfin, il ne faut plus l'appeler comme ça. Il faut aller chercher de ce qu'ils ont fabriqué à Marburg. Pour voir si un animal serait... Parce qu'ils en ont injecté un petit peu partout aux animaux aussi. Ne pensez pas qu'ils en ont injecté uniquement aux êtres humains. Pour voir s'il y a eu un animal qui a pu perpétuer le cycle naturel, entre guillemets.
Mais ça fait partie initialement du travail normal
artificiel. Mais non, ça s'appelle un crime.
Pour que ça se propage.
Il faut appeler les choses... C'est pour ça que je parle de la définition, enfin du propre, que nous sachions de quoi on parle. Je vous dis que ce vidéo ne doit pas apporter des noms avec des histoires de sous-espèces et consorts qui brouillent les pistes. Il n'y a pas de genre, ni d'espèces, de sous-espèces. Il n'y a pas de taxonomie pour ça. La taxonomie est consacrée aux choses que la nature a faites. Et pour que notre entendement puisse le saisir, nous faisons une systématique pour pouvoir les nommer. C'est le propre de l'homme. Le verbe pour désigner ce qu'il trouve dans le jardin d'Éden, si je puis me permettre cette allégorie. Mais ce que nous avons créé nous-mêmes, nous ne jouons pas au malin pour dire, on fait de la taxonomie, des classifications et tout ça. C'est la même. Regardez-les au microscope, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bien. Donc, on a fait ça pour voir si ce que nous avons injecté dans la nature a pu prospérer. Et à 7 reprises, 0. La nature vous a rejeté. Au lieu d'être un petit peu sage et de faire la considération de la chose, dit que ce truc-là ne va pas prospérer dans la nature, vous allez l'injecter aux êtres humains. Et vous appelez ça des épidémies. Et vous venez faire des simagrées pour dire on porte secours aux gens. C'est sérieux ça?
C'est pompier pyromane.
Je ne sais pas comment on l'appelle moi.
Alors moi je veux dire maintenant, le virus est là, vous nous avez expliqué comment il est arrivé. Supposons que ce soit la réalité, que c'est arrivé comme ça. Quels sont les symptômes de cette maladie?
Oui. Ressemble à tout point à la grippe, ça. Mais ce n'est pas la grippe.
Prétendument.
Il y a plein d'autres maladies infectieuses qui, à leur phase d'invasion, c'est-à-dire à la montée, pour arriver au pic de la maladie, pour que sa spécificité s'exprime, au cours de cette phase, ils ont tous la même symptomatologie, c'est-à-dire des maux de tête, des maux, des douleurs dans les muscles, les articulations, ce qu'on appelle les myalgies, arthralgies, etc. Bon, c'est des mots un petit peu barbares et tout ça. Pas barbares au fait. Quand vous regardez bien l'origine de ces mots-là, ce sont des mots africains.
Il y a des vomissements.
Bon, alors quand on arrive à la phase d'état, c'est là où le sujet présente les symptômes caractérisés où on n'a même plus besoin de faire des examens.
Quelle est la durée de la période d'incubation? Parce que c'est ça aussi. Comment on fait ça? À quel moment la durée de la période d'incubation?
Il faut faire attention entre la durée d'incubation où le sujet porte le mal sans développer aucun signe.
Ça, qu'il y a des signes cliniques.
Et la durée de la phase d'invasion.
Oui.
C'est un autre problème aussi.
D'accord, parlez-nous-en.
Et c'est valable pour toutes les pathologies, comme microbiennes, virales, champignons, tout ce que vous voulez.
Oui.
La période d'incubation,
oui.
C'est les pontifs du CDC qui changent tous les jours. Donc, ils sont perdus. Ils ne savent même plus ce qu'ils font. Ils avaient dit que c'est de 2 à 21 jours.
Tout à fait.
Ils disent maintenant que ça peut aller jusqu'à 45 jours. Il faut choisir aussi. Parce qu'il y a des gens qui vous écoutent. 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Il ne faut pas déclarer n'importe quoi. Le New York Journal Street, le New York Street Journal a déclaré que le patron du CDC a fait un mistake.
Une erreur.
Ça veut dire dégage. C'est ce que ça veut dire en langage clair chez eux là-bas.
Exactement.
C'est un pays d'une grande démocratie. Il faut les aimer ou ne pas les aimer.
A deadly virus that's breaking in the west of Africa, and that's the Ebola virus. Ghana is not immune from it, and the Ghana Health Service says the necessary fight increased surveillance on its borders. Nigeria seems to be unable to contain the spread of the Ebola virus in its territory. The World Health Organization said on Sunday that two cases of the deadly virus have been reported in that country. Africa, Ebola, yeah, frustration, condition in Africa, Ebola, yeah, frustration, condition in Africa, Ebola, yeah, frustration, condition in Africa, hey, yeah, no Ebola in America, no Ebola in Asia, no Ebola in Europe. Condition in Africa, Ebola, yeah, frustration. Condition in Africa, Ebola, yeah, frustration. Condition in Africa, Ebola, yeah, frustration. Condition in Africa. Hey, every day in the news, Ebola came out sister in Guinea. Every day on TV. Condition in Africa, Ebola, yeah. Frustration. Condition in Africa, Ebola, yeah. Frustration. Condition in Africa, hey, yeah. Them cities came from Africa. Them cities born is from Africa. Population control is what I'm thinking. Cause every baby come from Africa. They start civil wars, yeah, yeah. Undermine African governments. Them charge our leaders for war crimes, yeah. Why they're slaying innocent children and sleeping peace? Biological weapon is a new population control. Hey, yeah, Ebola, yeah. Ebola, yeah. Frustration, condition in Africa. Ebola, yeah. Frustration. Condition in Africa, Ebola, yeah. Frustration. Condition in Africa, Ebola, yeah. Frustration. Condition in Africa.
On va repartir pour ne pas vous tout, pour ne rien vous cacher. L'émission n'est pas en direct. Donc je dis ça parce qu'il y en a qui vont prendre leur téléphone pour se dire, bon, intervenir. Non, voilà, on est une famille, on va pas vous cachez des choses.
On est en famille.
Voilà. Voilà. Quand ce sera en direct, vous pouvez téléphoner, vous donner votre avis, on vous le dira. Hélas, pour l'instant, ce n'est pas en direct. Voilà. On va revenir quand le sujet est vraiment central avec l'aide du docteur Alobor pour essayer vraiment de finir cette émission ou que vous-même qui nous écoutez, que vous terminiez avec une idée un peu plus précise. Et puis, j'allais dire, les arrière-pensées. J'essaie, je résiste pour ne pas arriver à la politique, mais je finis par y arriver pour
les arrière-pensées
parce que c'est vrai. Et même, docteur, je suis tenté de dire, dans ça, on n'entend pas beaucoup la voix des Africains, sauf pour dire qu'ils sont morts, ils sont déjà 10 000, 20 000, etc. Voilà, les gens comme toi, docteur, pourquoi il n'y a pas de voix africaine autorisée qui les aide aller dans les médias, dire quand même il y a les Africains qui traversent, qui réfléchissent, qui connaissent le sujet, plus que tant d'autres. Je suis tenté même de dire, docteur, en admettant que ce soit la chauve, j'allais dire ce chiroptère, comme on dit, docteur, c'est un nom.
Chiroptère. Pour... Oui, pour c'est dire... un nom africain, chiroptère. Ça veut dire.
Je ne savais même pas, docteur.
Ça veut dire une aile qui porte une voilà, main. Ou une main qui porte une aile.
Maintenant, je sais, docteur. En admettant.
Kiros.
En admettant, docteur, ce chiroptère est partout. Pourquoi celui qui est en Afrique donne la maladie pour tuer les Africains? Parce qu'il y en a ici, les chiroptères, là, docteur. Il y en a tous sur le continent. Ici. Pourquoi, comme par hasard?
Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on mange des chiroptères.
Comme par hasard, c'est le nôtre. C'est chez nous que ça décime les Africains. Bon.
C'est là où l'homme doit se poser des questions.
Docteur, tu vas me dire, ta question aussi n'est pas médicale. Il est peut-être, il est politique. Mais enfin, les deux sont liés.
C'est la curiosité.
Pardon, docteur. Ouais.
Voilà. La sagesse commence à partir du doute et de la curiosité.
Voilà. Peut-être vous expliquer maintenant la phase, j'avoue que l'idée
voilà, de... Voilà, on était au niveau de la période d'incubation. Voilà. Des différentes périodes. Oui. Voilà.
Alors,
donc,
tout à fait,
voilà,
tout à l'heure,
pardon,
tout à l'heure, il y avait, une légère méprise entre ce qu'on appelle la période d'incubation et ce que moi j'appelle la phase d'invasion de toutes les pathologies liées à des agents, des micro-organismes. Alors, certains auraient tendance à inclure dans l'incubation elle-même et l'invasion. Mais en vérité, l'incubation, c'est quoi? L'incubation, c'est-à-dire vous êtes en train d'incuber, c'est-à-dire de couver.
La période de dormance.
De dormance, si vous voulez. Vous n'êtes même pas au courant que quelque chose est en train de se multiplier en vous. Et cette phase-là, jusqu'alors, était considéré comme allant de 2 à 21 jours. Si DC vient de nous dire que ça peut aller jusqu'à 45 jours, je ne sais pas s'ils ont inclus l'autre dedans ou si c'est la véritable incubation seule, sans l'invasion. Cette phase est suivie de la phase d'invasion où le sujet commence à manifester des signes cliniques abâtardis.
C'est-à-dire
qui ne ressemble à aucune spécificité de maladie infectieuse. Puisque ça perturbe, vous avez mal au crâne, dans les muscles, les articulations, vous êtes un petit peu grognon, fatigué. Voilà, c'est tout. Vous allez même penser à une indigestion. Tout peut passer dessus. C'est pour ça que j'ai utilisé exprès le mot bâtard. Ça ne ressemble à rien. Ça n'a pas de père ni de mère.
Indéfini.
Voilà. Parce que le mal qui est en train de monter en vous, au cours de cette phase d'invasion où l'agent pathogène a enclencher sa vitesse d'accélération pour arriver à la phase qui va suivre, tout vous passe dessus. Cette phase peut durer entre 2 à 6 jours. C'est le temps que le virus atteigne sa quantité de charge pour s'attaquer à vous
de croisière.
Et dire finalement, me voici.
Je suis là.
Me voici. Et quand vous dites me voici, là c'est ce qu'on appelle la phase d'état. Et là, toute personne qui a vu une fois un malade d'Ebola, enfin, un malade de Marburg virus va dire, de Marburg virus, merci Paul, peut dire celui-là. En fait, c'était ça. Ah, vous vous souvenez, il vomissait, il n'allait pas bien là. Ah, c'était ça alors. Oui. Et, entre guillemets, ou entre parenthèses, la phase d'invasion peut ressembler en tout point à un syndrome paludéen, surtout sous nos cieux. Ici, ça ressemblerait à un syndrome grippal. Ça sera un syndrome pseudo-grippal. Ça, c'est pas une vraie grippe. Et la phase d'état, sa durée dépendra de la capacité de l'être humain à faire face à l'agression.
De son système immunitaire.
Voilà. Soit très vite, tu meurs en 48 heures, 24 même, ou dès que la phase d'état s'annonce, tout défaille et tu vas directement au cimetière.
Je suppose, docteur, que l'écart entre 2 jours et X jours dépend aussi des individus, c'est ça?
Bien sûr, entre deux jours, il y en a qui tiennent la route.
Oui, quand ils ont un système immunitaire assez constant. Et
je suis sûr qu'il y en a qui vont connaître une incubation véritable, parce qu'ils ont été au contact du virus, connaître une véritable phase d'invasion et qui ne vont jamais arriver à la phase d'état. Ils l'auront éliminé avant.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est, je dis, ça, c'est les durs, ça. Ce sont nos guerriers, ça.
Oui,
voilà. Et la phase d'état, malheureusement, en fonction de certains nombres
d'éléments. Elle est mortelle dans la plupart des cas?
C'est ça qu'on appelle mortelle dans 50 à 90%. Parce que les autres, on sait pas ce que c'est. Et de deux choses, Jules. Soit on arrive à trouver des moyens de réanimation associés à votre défense naturelle. Vous sortez au bout de, aussi longtemps que le cœur battra et que vous montrerez des signes de résurrection ou c'est le décès, mais là aussi en fonction de aussi longtemps que vous tiendrez le coup. Alors, la phase d'état, qu'est-ce que ça présente? On parle de ce qu'on appelle une défaillance multiviscérale. Tout défaille.
Dans le corps humain,
c'est-à-dire les organes vitaux
sont touchés.
Sont touchés, à commencer par la coagulation du sang qui devient
hémorragique.
La fièvre hémorragique.
Voilà, elle devient fluide.
Fluide. Pourquoi? Parce que le foie est
complètement désorganisé.
Oui, a pris un coup sec sur la tête. Ensuite, il y a les reins qui sont bloqués. La personne développe un déséquilibre de son système acido-basique. Du coup, il peut avoir des difficultés respiratoires et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, tout est détraqué sur le plan des organes vitaux. C'est en cela que le salut va provenir plus des moyens de réanimation de bonne qualité pour ceux qu'on peut sauver que des histoires de sérum et de vaccins à dormir debout en phase d'état. Il faut pas mentir aux gens. En phase d'état, c'est laisser juste le... Si vous mettez un vaccin ou un sérum à quelqu'un qui a les reins bloqués, vous précipitez sa mort. Parce qu'il pourra même pas l'éliminer.
Mais le vaccin, il est préventif, il est pas, c'est pas comme, on le prend pas comme
thérapeutique. Oui, si vous dites par exemple. Oui, ce vaccin n'existe pas, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Quand ça viendra, on va dire ce qu'il faut dire. En vérité, si le vaccin existait.
En Suisse, oui, tout à fait, j'ai entendu ce matin.
Oui, pareil qu'on en fait aussi à Bamako, c'est pour ça qu'il y a le petit qui est décédé, n'est-ce pas? Depuis quand le Mali a un laboratoire de fabrication de vaccins? Faut être sérieux aussi de temps en temps.
À moins de l'avoir obtenu en urgence.
Et puis, ce qu'on a lu,
c'est faisable. Tout est possible, c'est faisable, Paul. N'est-ce pas?
Oui, hein? Chahid.
Et toi qui as été sur la route de Damas, là.
Chahid Amid.
Chahid, oui.
Chahid.
Ce qu'on a pu lire aussi dans la presse, c'est aussi le Japon qui prépare en ce moment un vaccin.
Oui. Le Japon n'a pas préparé un vaccin. Le Japon a un anti. Voilà. Viral.
Un antiviral, c'est ça.
Voilà. Oui, anti-grippe, qu'il dit, moi je l'ai essayé contre Ebola, je sais pas combien de cas ils ont eu, et que ça a été efficace, donc nous vous le proposons.
C'est ça.
Bon, écoutez, il n'y a pas d'autre solution, mais essayons.
C'est efficace parce qu'on
peut l'avaler. Je dis, prenons 100 patients et essayons ça sur eux, on va voir.
Mais comment se fait-il que la majorité des personnes atteintes d'Ebola, enfin, je peux dire les occidentaux, que ce soit en France, comme l'infini qui est arrivé, en Espagne, que l'infini qui a été contaminé, aux États-Unis, la majorité, quand même en sort guéri, il y a eu peut-être un ou deux morts. Mais dans l'ensemble, comment ça se fait que sur le continent, on n'arrive pas?
Je considère ça comme des messages d'espoir. Mais un disciple de Ptah Hotep, le doute est le début de la sagesse. Vous êtes sûr que ces gens sont malades? Vous avez trouvé la preuve de leur maladie où?
Écoutez, on vous a dit.
Oui. Emmanuel Kant dit, en matière de connaissance, il y a deux catégories. La connaissance directe et la connaissance par du on dit. Vous êtes dans le on dit.
Oui,
le direct, même votre date de naissance, vous n'en avez aucune certitude, madame.
Je peux vous le confirmer.
Pas le on dit. Vous ne pouvez pas avoir la certitude de votre date de naissance. Parce que quand on décrétait votre date de naissance, vous n'étiez pas là en conscience.
C'est vrai. L'infirmière, l'aide-soignante espagnole, elle s'occupait du prêtre qui est revenu et qui malheureusement est décédé.
L'infirmière est décrétée malade ou rapportée malade ou dit dans les ondes malade. Vous l'avez vu malade?
Makaïla.
Effectivement. Non, mais ce que je pose comme question est très très pointu. Et c'est pas vous voulez une colle, hein?
Non, je peux pas vous répondre.
Mais je vous amène à une interrogation pour dire que. Voilà. Il faut faire attention.
Les questions soulevées par Dr Guy Alevor sont assez pertinentes, légitimes. Et vous savez, non seulement en Europe, on a soigné des patients d'Ebola, mais aussi au Sénégal. Il y avait un Guinéen qui serait venu
au Nigeria, où la maladie a été éradiquée.
Et donc c'est ça qui nous amène à ce qui nous interpelle aujourd'hui. Récemment, j'ai entendu qu'un laboratoire des médecins allemands ont traité un médecin sénégalais qui était de passage en Allemagne et qui a été soigné. En France, des dispositifs ont été pris.
Mais l'autre est mort. Ils étaient deux. Mais
voilà. Donc nous, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est effectivement que comme disait le docteur, c'est que d'un côté, on donne aux Africains un espoir, hein, que c'est des maladies qui peuvent être traitées, alors qu'en Afrique, on laisse des gens mourir en masse. Donc là, ça rejoint un peu la thèse développée par le docteur.
Merci, effectivement. Michael,
mais est-ce qu'on les laisse mourir ou eux aussi ne font pas attention? Il y a des précautions qu'il faut prendre compte tenu du mode de contagion dont le docteur ne nous a même pas encore parlé, du mode de contagion de cette maladie. Oui.
Quand le problème d'Ebola a commencé, un petit peu comme pour le sida, c'est parce que les Noirs auraient copulé avec des primates, n'est-ce pas? Nous avons attrapé le sida.
Ce qu'on disait.
Et ce sont des Aïrois qui sont les coupables.
Encore eux.
Des malheurs du monde.
Encore et toujours les Aïrois.
C'est pas vrai.
Voilà. Et ils ont leur punition comme il faut.
Ouais, il y a vraiment.
Vrai ou faux? Bien. Ça, c'est une plaisanterie.
Bien sûr. On a compris comme ça, docteur.
Et on a dit que c'est parce que nous avions eu des contacts avec des primates qui nous l'ont filé. Cette thèse, finalement, a glissé vers la thèse de la viande de brousse. De la viande de brousse, on est passé au chiroptère, frugivore, pour faire scientifique. Comme s'il y a des chiroptères carnivores. Non, voilà. Tous les chiroptères sont des frugivores. Absolument. Donc arrêtez d'embêter le monde avec vos histoires.
Ou alors ce n'est pas cryptère.
Absolument. Ou alors ce n'est pas un chiroptère.
Absolument.
Hein? Il n'y a que des vampires, que moi je n'ai jamais vu d'ailleurs, qui sont hématovores, ou vous l'appelez comme vous voulez.
C'est un peu comme le diable, docteur, on ne les voit pas.
On parle même d'ailleurs de zoonose. Il parle de zoonose, c'est-à-dire...
Non, mais ça c'est des gros mots. Zoonose, ça veut dire l'ose du zoo.
Voilà, c'est ça.
Hein? Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Je continue ce que j'étais en train de dire.
Il vaut mieux même pour nos auditeurs, docteur.
Voilà, non, parce que ça risque de devenir inintéressant.
Oui,
parce que dans ce jeu-là, je peux vous fabriquer tous les jargons capables de... Je vais parler pendant des heures sans que vous compreniez rien à ce que je dis.
Oui, c'est vrai.
Juste pour vous montrer une chose. Nous ne sommes pas dans le du corps médical.
Voilà, juste pour vous montrer une chose. De deux choses l'une. Soit on est sérieux et on parle un discours intelligible, ou on fait son malin et on s'embrouille à la fin soi-même. Comprenez? Donc je disais que la mode de la viande de brousse est passée. La mode de la chauve-souris, le chiroptère, c'est pas un bon mot. Non, n'est pas bon. C'est chauve-souris. Là, tout le monde comprend. Ensuite, c'est passé. On m'a invité une fois sur TV5 Monde. On a failli me faire dire aux Africains que c'est parce qu'ils ne savent pas se laver les mains qu'ils attrapent.
Je voudrais qu'on en vienne justement.
Qu'on attrape des problèmes d'hygiène. Mmh. Vous savez, la première fois que ici, en Europe, au Moyen Âge, on a su comment on fait l'hygiène corporelle d'un être humain, ce sont les Noirs que les Arabes ont amenés ici, qu'on appelle les Sarrasins ou les Maures. Ce sont eux qui ont appris l'hygiène corporelle aux Blancs.
Dans le cadre de l'esclavage.
Comment est-ce que quelques siècles plus tard, vous vous érigez en donneur de leçons d'hygiène corporelle? Soyons sérieux. Quand vous dites des choses comme ça, moi, Guy, ça m'énerve.
Comment est-ce qu'on a comment dans cette maladie, le mot de contagion de la maladie? Après que vous nous ayez donné les symptômes, les différentes phases, la phase 1, la phase 2, la phase 3, proximité. Maintenant que la maladie est là, mais la proximité, mais c'est comment? Parce que comment se fait-il que le fait de peut-être toucher quelqu'un? Il disait, parce que le problème aussi en Afrique, il faudrait qu'on en vienne, c'est que les gens ne croient pas. Et c'est dommage de ne pas souvent croire. Ça a été le cas avec le sida. Ils ont dit que c'était un syndrome inventé pour décourager les amoureux. Mais toujours est-il que même si ça a été inventé...
Les amoureux
africains. Oui, africains. Toujours est-il, docteur, que si ça a été inventé...
Heureusement, ils ont tout fait, mais on continue à se
multiplier.
Mais heureusement,
oui,
docteur.
Heureusement, on est pas... Je veux bien, docteur. Moi, je veux...
Ces Africains-là, ils sont irréductibles.
On n'a pas encore succombé à ça, non, c'est vrai.
Docteur.
On a tout fait, mais ils continuent.
Oui, mais je veux bien. Mais je veux bien. À partir du moment où le mal, il est là, quoi qu'il en soit, supposons que ça a été fabriqué dans les laboratoires.
Ouais.
On l'a inoculé, il est là, mais il y a des précautions à prendre. Les gens, ils ont dit c'était syndrome inventé pour décourager les
Madame,
amoureux.
Qui c'est qui vous a dit qu'on inocule ça? Bah, si vous avez dit on l'a inoculé, ça veut dire quoi inoculé? Qu'est-ce que vous appelez pas inoculé?
On a inoculé un virus dans la société
Vous appelez inoculé comment?
Inoculé, est-ce que j'entends par inoculé sur une chauve-souris, d'après ce qu'ils disent, eux.
Oui.
Inoculé sur la chauve-souris.
Oui,
et maintenant, par contagion, les humains l'ont eu parce qu'ils disent.
Ah, d'accord.
C'est ce qu'on a lu dans la presse.
Oui, c'est ce que
je vois, oui. J'ai compris votre raisonnement.
Voilà, c'est le raisonnement qu'on nous donne. Je dis, supposons qu'il était fabriqué.
Comment on a inoculé ça aux chauves-souris?
Mais s'il a été fabriqué, c'est qu'on l'a dû le prendre quelque part et puis on lui a fait l'inoculation d'un virus. On lui a,
oui, mais vous utilisez le mot inoculation pour expliquer l'inoculation. Utilisez synonyme pour que les gens comprennent.
Alors, comment j'ai utilisé le synonyme? On lui a injecté ça.
Voilà le mot piqûre.
Oui, on lui a fait,
on
lui a injecté ça tout
là,
à fait.
Là, vous avez été intelligible.
Voilà.
Pour donc, même ma grand-mère qui nous écoute peut-être au village.
Non, je voulais donc dire que ça a été inoculé. Mais à partir, vous voyez ce monsieur qui dit le Libérien, il en a été guéri. Il dit, je croyais qu'Ebola n'existe pas, que c'est une invention. Soit. Mais de là à se laisser mourir comme ça parce qu'on croit alors qu'il y a des gens qui meurent, mais c'est prendre ses précautions. On est venu mettre mal chez vous, vous ne l'avez pas voulu, on le suppose, mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Est-ce qu'on va donc se laisser décider? On va se laisser envahir par le mal? Non, il faut faire le nécessaire.
Ou raison alors, pour laquelle de contenter de prier. De
non, raison pour laquelle je demande au docteur, cette maladie, comment est-ce que pour parler couramment, simplement, on le chope? Comment est-ce qu'on l'attrape? Voyez-vous?
Bien, bien.
Voilà.
Bien. Jusqu'aujourd'hui, je vous ai dit les mots de multiples et variés,
oui,
qui ne tiennent pas la, à l'épreuve de la vérité.
À la classe universelle.
Tout à fait. Donc, il faut oublier ça. Vous avez utilisé le mot piqûre. Donc, voilà une des voies. Si on éjecte ça, on prend des virus, on éjecte à quelqu'un, si, il va être contaminé.
Oui.
La deuxième voie, ils appellent ça le contact.
Voilà,
c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est en face d'état.
Oui.
Vous savez comment il se présente? Vous avez jamais vu quelqu'un en face d'état?
De la maladie Ebola?
On n'a aucune idée.
Moi non plus, j'ai jamais vu.
Non,
mais j'ai vu des images.
Voilà. Oui.
Il ressemble à un ébouillanté. Vous en voyez un petit peu?
Là, on voit, oui.
Et les bulles que la personne a sur le corps, c'est des réservoirs énormes pour le cas de virus.
Oui.
Donc, si vous touchez ça,
c'est fini.
Vous êtes voilà, sûr d'être
bon,
malade.
Bon, avant, au début, on disait que pour peu que vous ayez la peau intacte, qu'il n'y ait pas de,
de déformation,
pour que ça passe à travers, vous êtes aidé. Maintenant, on sait et on suspecte que le simple contact suffit. Vous verrez bien que ceux qui travaillent au contact des malades mettent une combinaison.
Oui, voilà, voilà, tout à fait.
Ils mettent aussi un masque.
Absolument.
Pas un masque simple. Les blancs mettent un masque avec un aérateur. Oui. Les nègres qui ramassent les cadavres, eux, ils mettent un masque simple. Et ils tombent comme des mouches. Vous comprenez peut-être pourquoi. Ils sont pas
parce
bien protégés.
Pas adapté,
on imagine pourquoi.
Vous imaginez très bien pourquoi.
Hélas.
Bien. Donc, ça veut dire quoi? Que le virus traverse la piqûre,
le contact.
Et la voie aérienne. Quand ça vous rentre pas les narines, vous l'attrapez.
Donc on aspire, si on aspire.
Voilà.
On peut
vous avez
aspirer.
Trois voies, c'est largement suffisant. Ouais. Les autres voies, bon, c'est, Il paraît que 60 jours après la guérison des malades, il l'a encore dans les spermes.
Oui. Voilà,
donc,
7 jours.
Si
on
vous
dit
allez
non,
faire
7
un
jours,
tour en Afrique, ou quand vous revenez, machin, parce que vous pouvez avoir été au contact du virus sans avoir été jusqu'à la phase d'état.
C'est ça.
Donc, ayez pitié de votre
campagne
pendant 2 mois.
Oui.
Moi, je préfère encore que vous la trompiez. Parce que si vous la trompez, vous êtes obligé de faire utiliser un préservatif.
Oui, voilà, il faut freiner les amoureux. Là, vraiment.
Il faut mettre frein à ses ardeurs sexuelles.
Freiner fortement.
Il faut debout sur les freins à 4 pieds.
Exact. Heureusement que.
Je pensais que tu étais notre aîné là pour nous raisonner, mais juste c'est lui qui est le premier.
Voilà. Tu vois, le regard critique et les analyses éclairées de docteur Guy Alevor démentent totalement, en fait, la thèse universelle des modes de contamination, et ça nous replonge, nous autres observateurs, sur le mode de transmission de cette maladie extrêmement dangereuse qui est Ebola. Donc, effectivement, on va vers une instrumentalisation, je dirais, de cette maladie-là en Afrique, alors que, du point de vue occidental, on a l'impression que les gens ne sont pas du tout dans la logique de nous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont inoculé, si je peux me permettre de le dire, inoculé ou bien transmis cette maladie, je sais pas à quel sein, à quelle motivation,
à quel dessein,
pour pouvoir peut-être à chaque fois dramatiser l'Afrique, à chaque fois présenter l'Afrique comme un continent, en fait, de tous les mots, un continent
misérable.
Et ça nous interpelle, nous, Africains, qui sommes effectivement en Occident et qui pensons que nous avons droit à un traitement respectueux.
Nous sommes le concentré des
malheurs
de
l'humanité. Oui,
pour compléter ce qu'a dit l'éminent professeur ici, c'est que ici, d'un point de vue géopolitique, c'est que le taux de population aussi en Afrique va augmenter d'ici ces 10 dernières années.
Démographie.
Avec ou sans sida et avec ou sans hépatite,
exactement.
Avec ou sans Ebola, nous allons
tout
nous
à fait
multiplier.
Et on voit bien.
Moi,
aussi,
je vais prendre 2 femmes d'emblée, tout de suite.
On voit bien.
Il y a eu combien de morts là?
10 000 morts. On voit bien aussi d'un point de vue géoéconomique qu'aujourd'hui, le taux de croissance, là où les pays européens vont chercher le taux de croissance,
il est sur le continent
africain.
Absolument.
D'où l'intérêt géopolitique pour certaines superpuissances européennes ou américaines, effectivement, de pouvoir programmer ça. Moi, je pense pour que ce freiner, sont des programmations.
Pour freiner la croissance africaine, peut-être.
Exactement. Voilà, le point démographique.
Non, c'est le point démographique. Et puis, c'était l'essor, hein, c'était l'an économique. On voit l'essor de l'Afrique. L'Afrique est en train quand même de décoller, ça se constate, avec un taux de croissance majoritairement à 5%, un peu plus d'ailleurs. Et peut-être, selon ce que vous dites c'était un moyen pour stopper. On voit un pays comme le Sierra Leone qui revient de presque 10-15 ans de guerre. Le Libéria, c'est la même chose. C'était des pays qui étaient en train de se ressaisir. Et vraiment, là, c'est un coup. On leur a asséné un coup de massue. Parce qu'on se rend compte qu'économiquement parlant, ces pays vont complètement régresser.
Il y a aussi la question de l'immigration aussi, parce que c'est pas simplement le point de vue économique. La question de l'immigration gêne énormément les pays européens. Et on voit bien aussi que certains pays n'ont pas quand même fermé leurs frontières. Donc il y a quand même des choses positives.
Oui, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on veuille fermer les frontières? C'est quand certains se mettent en quarantaine. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
Moi, je pense que c'est pas une bonne solution. Aujourd'hui, c'est vraiment que la communauté scientifique, et notamment les scientifiques africains, doivent prendre leurs responsabilités aujourd'hui et donner une image. Dire, comme le fait le professeur. On voit par exemple que le Maroc n'a pas fermé sa frontière. Il y a toujours des vols avec la Guinée. Donc il y a quand même des alternatives. Il y a des choses. Voilà, il faut les souligner.
Par rapport à la fermeture de frontières, pour répondre, pour éclairer un peu, la fermeture de frontières africaines, pour moi, je pense, ça remet en cause l'unité africaine dont nous prenons la libre circulation et la solidarité entre Africains. Voilà, il est hors de question que si aujourd'hui, et moi, je voudrais effectivement nuancer ce qu'il disait Hortense, le fait qu'ils ont asséné à l'Afrique. Nous devons assumer ce qui nous arrive, ce qui arrive au Bénin, au Libérien, ce qui arrive au Sierra Leone, ce qui arrive au Guinéen, arrive à nous tous Africains. Aujourd'hui, Ebola, hier, j'écoutais une émission dans une radio aux États-Unis où des enfants africains, quand ils partent à l'école, ça stérilise en fait des élans racistes à l'égard des Africains qui sont stigmatisés à longueur de journée. Nous pensons effectivement qu'en tant qu'Africains, cette maladie est une véritable tragédie.
Pardon, Makaïla, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis. À Bianco, ici, une famille qui revenait de Guinée, et tous les parents ont refusé d'envoyer l'enfant à l'école. Hein. Ils n'ont pas besoin d'aller si loin. Même là, en France, là. Voilà. Les parents ont préféré garder leurs enfants et l'envoyer à l'école sous prétexte que... Pardon, docteur, je crois qu'on est allé assez loin dans, j'allais dire, la thèse complotiste. Bon, je crois que, bon, Makaïla avait le dire, assumer, je crois qu'il y a ça aussi. Bon, je crois que c'était vraiment... Je voudrais qu'on...
Je me permets de juste préciser, parce que après c'est c'est pas pour te la couper pause. Mais la thèse complotiste, je ne pense pas qu'il y ait un complot, pour la simple et bonne raison que pour la simple et bonne raison en majorité, donc je ne vois pas qui peut faire un complot contre eux.
Mentality. If you say you become a new human, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself.
And so you fit in, never release yourself. Colon mentality.
If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself.
If so, them they overdo all the things that them they do.
If so,
them they do. They overdo all the things them they do.
If so,
them they do. Them they think it's they better pass them, brother.
If so,
them they do. Them they think it's they better pass them, brother. If so, eating with black no good. Now foreign things them they like. If so, eating with black no good. Now foreign things them they like. If so, them go to condition and close them country away. So, them go down here. Yeah, condition and close them country away. So, them judge him go cocky weak and jail him brother away. So, them judge him go put him weak and jail him brother away. So, them go proud of them name and put them slave name for heading. So, them go proud of them name and put them
them slave them for heading on the soul. Colour mentality now make you hear me now. It's a ransom me make you hear. It's a Williams me make you hear. It's a Ali Abu make you hear. It's a Mohammed make you hear. It's a Anglican me make you hear. It's a Bishop me make you hear. It's a Catholic me make you hear. It's a Muslim me make you hear. The Africa we devil make you hear. The Africa we devil make you hear. Follow mentality. Follow mentality. It's a ransom me make you hear. It's a ransom me make you hear. The Africa we devil make you hear. The Africa we devil make you hear. Follow mentality. Follow mentality.
Apaise un peu. On va revenir sur terre et sur nos pieds pour rester dans le sujet. Hortense, peut-être tu peux faire un petit résumé de ce qu'on vient de dire et puis après, on revient. Moi, j'ai encore des questions à poser aux médecins. C'est pas tous les jours qu'on a un médecin sur la table pour une question aussi grave sur notre continent. J'allais dire pour le.
Paul. Donc, nous allons revenir sur depuis le début de cette émission. Déjà, il faut que nous rappelions qui sont nos invités. Nous avons le docteur Guy Alvor, qui est médecin spécialiste et légiste et expert. Nous avons aussi Shred Hamid, c'est ça, j'ai bien prononcé?
Oui, Shred Hamid.
Shred Hamid, qui est éditorialiste et géopolitologue. Et ensuite aussi Makaela Gebla, qui est journaliste et blogueur. Et nous parlions aujourd'hui, le thème central de notre émission, c'est Ebola. Ebola, c'est cette maladie que vous connaissez tous, qui sévit sur le continent, qui est un véritable séisme. Hein, parce que selon les dernières informations de l'Organisation mondiale de la santé, il y a plus de 10 000 contaminations, à peu près 5 000 morts. Ça, c'est ce qui est officiellement. Il semble qu'officieusement, ce serait un petit peu plus. Mais nous, ce qui nous intéresse, et aujourd'hui, c'était d'avoir le médecin avec nous, et qui, dans une première partie, nous a parlé de la maladie, qu'il n'appelle pas d'ailleurs Ebola, qui, selon le docteur Guy Alvor, serait maladie de... Je prononce pas bien, c'est quoi, Paul?
Marburg,
voilà. Et que ce virus, en réalité, n'est pas, contrairement à ce que nous fait entendre, qui serait... que l'aurait... Enfin, qui aurait fait sa première apparition en 67 par des primates et ensuite par des chauves-souris, mais que ce virus a un nom spécial, non seulement les Marburg, mais qu'il aurait été fabriqué dans des laboratoires et ensuite inoculé à ces fameux primates et à ce fameux, quand je dis inoculé, c'est-à-dire injecté. Alors, c'est ce que, alors, ce que nous disions en off entre là, avant de revenir sur le plateau, c'est que nous trouvions que ces accusations étaient assez graves et que nous voulions que le médecin, parce que le dire, c'est la communauté internationale dans son immense majorité, et pour eux, la thèse est simple. Le virus est apparu chez les primates et au cours des multiples ramassages d'animaux ou de contamination d'achat de ces d'animaux, les personnes auraient chopé, attrapé cette maladie, auraient été contaminées. En touchant ou en mangeant, pour parler plus clairement, auraient été contaminées. Mais le docteur nous dit que tel n'est pas le cas. Alors nous revenons vers le docteur et nous voulions vraiment qu'il nous donne des preuves tangibles de ce qu'il nous a dit dès le départ, à savoir que ce virus n'est pas venu du fait des animaux, mais qu'il est venu du fait des humains. Docteur, c'est à vous la parole.
Merci. Alors, je vous dis ceci. En 67, soit 9 ans avant ce qui est présenté comme l'épisode inaugural de l'atteinte de ce virus en Afrique, dans la région de l'Afrique centrale. En 67, donc, il y a eu un accident de laboratoire dans une petite ville de la République fédérale d'Allemagne. Nous étions encore en pleine guerre froide. Et cette ville était sous influence américaine. C'est une petite ville, mais qui a une université de près de 20 000 étudiants.
Vous connaissez le nom de la ville ?
C'est la ville de Marbourg. Et il y a eu un accident de laboratoire où ce virus-là a contaminé, au cours de recherches sur des vaccins, 31 laborantins.
Donc, accidentellement, docteur.
Accidentel. C'était présenté comme tel, en tout cas.
D'accord.
Et publié. Si vous regardez dans la publication, la documentation scientifique, les articles médicaux, vous trouverez cet article référencé. Vous pourrez le lire, c'est en anglais. Cet accident a été répertorié. Et malgré les soins apportés suite à la contamination...
À ces laborantins,
7 en avaient trouvé la mort. Quand même, ça fait à peu près 11% de décès. Bien. Le même accident s'était produit concomitamment dans un autre laboratoire en Allemagne, à Francfort, apparemment à Hambourg aussi, et surtout, cette fois-ci, à Prague, à Yougoslavie, c'était Yougoslavie à l'époque, sous influence soviétique. Je vous dis ceci, à l'époque du téléphone rouge, si tu pètes à Washington, on le sait à Moscou. Combien de secondes ça a duré ton pète? On peut le savoir. On ne sait pas quels espions ils travaillent pour je ne sais qui. Donc, les deux qui étaient à l'époque...
C'est l'époque de la RDA et RCA.
Dans la course aux armements de destruction massive, qui sont de trois ordres. Atomique, nucléaire, avec la bombe H, la bombe à neutrons, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est la bombe atomique, en gros.
Nagasaki.
Les bombes chimiques, les gaz, les produits, tout ça. Et les bombes biologiques.
Bactériologiques.
Oui, il n'y a pas que les bactériologiques, justement. Il y a aussi les virologiques.
D'accord.
Et il y a même des champignons. Donc, vous êtes loin d'imaginer
la panoplie.
La panoplie et jusqu'à quel point l'on peut pousser son raffinement dans le mal.
Oui, la science.
Vous êtes très loin.
La folie.
De mort.
La folie de la mort. Voilà le tableau dans lequel les choses se passaient. Vous comprendrez que le mal les a frappés tous les trois concomitamment. Bon, ça, c'est le problème.
Hambourg, Francfort.
Et Prague.
Et Prague, 4.
L'ex-Yougoslavie.
Bien, ça c'était au mois d'août.
1967.
67. Et déjà au mois de septembre, à peu près 3 semaines après, il y a eu. Et ça on ne le dit quasiment jamais. Je me dis, mais pourquoi vous faites l'impasse sur l'épisode d'avant l'épisode inaugural?
Ça veut dire, oui.
C'est-à-dire septembre 1967. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Voilà la clé.
Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 1967?
C'est le premier épisode sur le continent noir au Congo-Zaïre.
D'accord.
Vous avez tout compris?
Et est-ce que entre ce qui s'est passé en Europe là et le Congo et le Congo, l'actuel RDC, ce serait comment alors quelqu'un? Non mais je vois.
Oui Paul, c'est simple hein.
Oui.
On va pas poser des questions métaphysiques là où il y en a pas. Pour consacrer notre esprit et nos bons sens à des choses plus sérieuses.
Oui docteur. Oui.
De deux choses, soit il y a aussi un laboratoire P4. Soit il y a un laboratoire P4 aussi au Congo Zaïre à l'époque.
Voilà,
c'est ça. Et il y a eu un accident aussi au Zaïre, auquel cas nous sommes match nul. Soit quelqu'un l'a amené. Pourquoi vous cherchez partout?
Donc
c'est pour essayer de comprendre un peu. Bon, je veux dire, on ne peut pas seulement parler un
l'éclairage. Mal. Moi, je vais ajouter l'éclairage historique. L'éclairage historique du docteur accrédite effectivement la thèse selon laquelle que l'Afrique reste encore cette cible, malheureusement.
Oui. La traite et l'esclavage n'ont pas suffi.
Des grandes puissances. Après 400 ans d'esclavage, après une colonisation qui a duré des décennies et des décennies.
Qui dure encore.
Qui dure encore. Nous sommes toujours, en fait, au cœur des débats et des réflexions qui sont souvent, malheureusement, menées par d'autres, sur l'Afrique. Et c'est un peu triste. Et nous pensons effectivement qu'il est temps que l'Afrique émancipée, l'Afrique débarrassée, décolonisée, soi-disant, soit toujours le centre de tout le monde du monde.
Mais pourquoi ce virus, cette fois, est plus fulgurant que les dernières? Parce que les 20 premières autres années, on parle de 200 morts, ça passait. Mais
justement,
mais cette
aujourd'hui,
fois, on en est
de
10 000. On a des milliers. Avant, ça n'a pas été des milliers.
Aujourd'hui.
C'est depuis le mois d'août. Hein. Nous sommes au mois de novembre, là. En moins de deux mois, on a des milliers. Est-ce que le virus, il a muté? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce virus soit si violent?
Jamais la médiatisation autour d'Ebola n'a été aussi grave que les précédentes années.
Parce qu'il y a des milliers de morts.
Du coup, c'est les autres qui informent l'Afrique.
Non, si, c'est pas parce que.
Ben, je vais vous répondre.
C'est plus l'épidémie, ça devient la pandémie.
Je vais vous répondre de manière algorithmique. Qu'est-ce que vous appelez fulgurante? Vous voulez parler du nombre de cas?
Tout à fait.
Non, la vitesse.
De la violence même, de la vitesse de propagation quand même.
Alors, on peut augmenter la vitesse de propagation d'au moins deux manières. Soit parce que le virus devient plus virulent, c'est-à-dire, il suffit de très peu de quantité de virus pour foudroyer la personne. Soit il suffit d'augmenter le nombre de cas. Comment on peut augmenter le nombre de cas, à votre avis?
Mais la question, je vous la
plus
pose.
Plus d'endroits, donc.
Docteur, je vous la pose la question. J'en endroits, sais rien.
Bon, il y a quelqu'un qui a donné la solution, donc je ne commente plus.
Vous voulez dire qu'actuellement, le virus, il a été, je reprends mon expression, inoculé à plusieurs des endroits différents.
Faire des modélisations mathématiques pour dire voilà comment on fait pour machin. Puisqu'on connaît comment les populations sont regroupées dans ces régions, ils le connaissent mieux que nous. Où est-ce qu'on peut frapper pour obtenir le nombre de cas?
Quand le type
vous dit que vous aurez une situation où on aura 10 000 contaminations par jour,
en décembre,
il est magicien.
Voilà, c'est ça.
Non, mais répondez à la question.
La question, c'est, moi, je voulais vous la poser, docteur. Comment se fait-il qu'on a dit que le point d'orgue, c'est le mois de décembre et qu'il y aura 10 000 contaminations? Ça, c'est l'OMS qui l'annonce.
Je dis que ce sont des magiciens.
10 000 contaminations par semaine.
Oui, comment ils ont fait pour le savoir?
Mais c'est une extermination totale si ça va à cette allure-là.
Non, c'est pas une extermination. Je vous dis qu'il n'y a pas de complot. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que des Africains qui meurt de ça. Donc il n'y a pas de complot.
Il y a quelques blancs quand même.
Mais
je ne suis pas dans le complotisme. Je ne sais même pas ce que ça veut dire.
Ça me rassure, docteur. Vraiment, il ne faut pas tomber.
Mais je vous pose cette question. Celui qui vous dit qu'en décembre, il y aura
10 000 par semaine.
Ils ont dit qu'on arrivera à un moment où il y aura 10 000 contaminations par
semaine.
Voilà. Il est le bon Dieu pour savoir. Il a fait comment pour savoir?
Pourquoi
celui qui annonce ça? D'abord, c'est qui? Il a fait comment pour savoir?
Peut-être parce que c'est la fin d'année, que les gens vont faire préparatifs.
C'est un cadeau de Noël, ça aussi.
Je voulais revenir dans ce que tu as expliqué, docteur Guy Levabre. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un, de préférence un Africain, capable d'aller dans les médias occidentaux, aux États-Unis, en Europe, expliquer ce qu'on vient d'apprendre? Pourquoi quelqu'un, dès le départ, docteur? Pourquoi je veux dire, si, est-ce qu'il y a soit directement lui-même, soit malheureusement...
Je vais vous répondre.
Pourquoi?
J'ai fait...
Ça me fait mal.
Au mois de septembre dernier, c'était le 27 septembre, une communication publique devant l'Association des médecins africains de France. Et je m'étais indigné, c'était l'introduction de mes propos, du fait que nous disons que nous sommes l'élite médicale de notre continent. Encore que je pense que ceux qui sont en Afrique sont meilleurs que nous, pour soigner en tout cas les Africains.
Oui.
Et il y a une épidémie d'une ampleur pareille, qui suscite même des interventions de l'ONU, donc de la planète entière.
Absolument.
Et nous sommes là dans nos costards, à dire que nous sommes des médecins. Et les petits blancs, je dis qu'ils ne connaissent rien, vont faire des déclarations à l'emporte-pièce. Demain, ils viennent dire le contraire. Il ne s'en rappelle même plus. Ça veut dire que vous voyez le niveau? Parle et vous ne dites rien. Mais vous le laissez parler. Ça veut dire que votre niveau n'est pas aussi élevé que le sien. Donc c'est lui qui parle pour vous.
C'est-à-dire qu'on ressemble à l'image des dirigeants africains.
Oui, mais même en Afrique, ils ne disent rien.
Même en Afrique, ils ne disent rien.
Ce que je voulais savoir, c'est docteur Alva, est-ce qu'en Afrique.
Je sais quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant en Afrique. C'est Madame Sirleaf.
Johnson Sirleaf.
Oui, elle a dit quelque chose de très bien. Qui résume à peu près la position et la bonté, la bonassasse de l'Africain. Il a dit, monsieur Duncan a commis la lourde erreur d'aller infecter les Américains alors qu'ils se savaient malades. Ils s'excusent. Elles s'excusent. Vous avez compris?
Oui. Duncan, c'est le Libérien décédé en Afrique, aux États-Unis.
Qui a pris la vie alors qu'il venait de...
Oui. Pendant que les États-Unis d'Amérique font tout pour les sauver, alors inoculant le machin, c'est eux-mêmes qui disent ça, d'accord? Elle va s'excuser que monsieur Duncan a pris la maladie
pour aller contaminer.
Docteur, est-ce que les chefs d'État africains...
Mais c'est ce que Madame Stéline a dit.
Oui, absolument.
Donc je dis ça, c'est une intervention. C'est une intervention au moins qui a le mérite.
Oui, d'être clair.
La vérité. D'être clair.
Je vous pose une question, je reviens là-dessus et je vais insister et persister. Donc, est-ce que les dirigeants africains savent, comme vous, que ce virus vient d'ailleurs? Vous croyez qu'ils le savent, eux?
S'ils ne le savent pas, on cherche à savoir.
Non, je pense que c'est la question.
Oui, mais un dirigeant ne peut pas ne pas savoir, quand même, c'est son rôle.
Et pourquoi?
Il a les moyens de chercher et savoir.
Est-ce qu'il
est vraiment un dirigeant digne de ce nom?
Oui, mais pourquoi ils ne font pas?
Non, mais ils sont bons, le dirigeant.
Parce qu'ils sont africains.
Le dirigeant africain, il a quand même son conseiller sanitaire et tout ça, non? Donc il doit savoir.
Non,
l'être humain peut se tromper.
Oui.
Moi qui suis là, je considère que ce que je peux dire peut être entaché d'erreurs.
Voilà. Bien sûr, docteur, on est sûr.
Mais il faut que nous nous corrigions.
Donc, effectivement, pour répondre à ta question, à votre question, Hortense, c'est que si, ici, sur ce plateau, docteur Guy Allevor a cette liberté de ton de nous éclairer sur l'injection de cette maladie venue vers la Zoroastrisme. Par contre, quand tu dis, pourquoi les dirigeants africains sont-ils au courant?
Est-ce qu'ils savent? C'est la question.
Ils sont, même s'ils le savent, ils n'auront pas le courage ou bien la liberté de ton d'évoquer la responsabilité étrangère du fait que nos dirigeants sont souvent placés de l'extérieur. Et pour ne pas froisser, je dirais, ceux qui les ont placés au pouvoir, ils ont le maître. Effectivement, ils préfèrent faire un
procès. Nos dirigeants ne sont pas placés de l'extérieur. Nos dirigeants ont été élus.
Quelque part, mais c'est,
enfin,
ça varie.
Cas, moi,
ça varie d'un pays à un autre.
Ce que je sais, c'est qu'ils ont été élus.
Oui.
On va parler de ça.
Si vous considérez qu'ils n'ont pas été élus, apportez la preuve du contraire.
Absolument.
La situation géopolitique, elle diffère selon les pays africains. C'est pas tous les mêmes systèmes. Voilà.
Et donc, c'est peut-être ça qui fait qu'ils font profil bas pour ne pas choquer le partenariat international, ou bien parce qu'en fait, une telle accusation ou bien de tels propos sortent d'un dirigeant africain, ça pourrait avoir beaucoup d'impact.
C'est un effet de bombe.
Un effet domino pour beaucoup d'observateurs étrangers. Par contre, quand c'est des journalistes ou bien des personnes indépendantes ou bien des médecins, des personnes spécialisées sur la question, l'explique. Je pense qu'ils ont quelque part raison et que c'est quand même des thèses vérifiées. Mm-hmm. Maintenant, pourquoi les dirigeants africains se taisent devant cette tragédie?
Ils ne font rien dans leur pays, parce que je veux bien qu'ils se taisent, mais pourquoi ne font-ils rien dans leur pays?
Oui, la mobilisation même.
La mobilisation, oui, c'est ça.
Et même ce qu'on appelle l'Union africaine.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Si quelqu'un l'a déjà vu, ça se trouve. Enfin, au moins à ce niveau-là.
Oui.
L'Union africaine.
Madame Zuma a mis, je crois, un
droit. La ministre Zuma.
Justement, en fait, l'Union africaine, c'est l'Union. Nous, en tant qu'Africains, Monsieur Paul, nous en tant qu'Africains, nous souhaitons une Union africaine de peuple, mais pas une Union africaine de chefs d'État. Or, ce à quoi on assiste, c'est quoi? C'est les chefs d'État. L'Union africaine a été tissée du sommet vers le bas.
La mobilisation vient de l'extérieur, elle ne vient pas de l'intérieur. La mobilisation devait être sur le
professeur Pascal Adjamagbo.
Oui.
Celui avec lequel vous travaillez avec lui, celui.
Oui.
Mathématicien.
Le mathématicien a fait une proposition à l'Union africaine et au Conseil de sécurité de l'ONU en demandant, à travers une pétition, la réalisation d'une enquête pour mettre fin à cette suspicion, parce que paraît-il, dans certaines capitales africaines maintenant, la Croix-Rouge a du mal à travailler parce que les gens disent ils vont nous inoculer Ebola. Je dis, mais il faut arrêter.
Il y en a qui ont été tués, hein, au Guinée, on les a envoyés, des gens qui rendent service
à la collectivité.
Oui.
Et vous pensez qu'ils méritent d'être. J'appelle ça de l'ignorance.
En Guinée,
et la seule façon de mettre fin à ce genre de tragédie, c'est de faire une enquête pour savoir comment est-ce que ce mal est arrivé dans l'histoire de l'humanité et les tenants et les aboutissants. Pas pour porter des accusations, je ne pense pas que ça soit utile.
Non.
C'est comment faire pour éviter que ça se reproduise et que ça s'arrête. Vous savez, en médecine actuellement, en France, dans les normes de qualité, nous faisons ce qu'on appelle une RMM. Revue de morbidité, de mortalité. C'est-à-dire que quoi, il peut arriver qu'une infirmière se trompe d'ampoule,
oui,
ou un médecin se trompe de posologie.
Absolument.
Ou qu'on oublie le temps, etc., et qu'il y ait préjudice au patient. Et quand vous constatez ça, de toute façon, le mal est fait. L'objectif de la réunion de RMM, ce n'est pas de trouver le bouc émissaire ou l'accusé pour le châtier.
Comment faire pour le vite?
Comment faire pour que ça ne se reproduise pas? Faisons une RMM pour Ebola. Voilà. Faisons une RMM. C'est ce qu'on a appelé, par ailleurs, une enquête. Faisons une enquête. Quelque chose qui permette de régler ce problème pour éviter sa propagation d'une part. Parce que finalement, tout le monde va en subir, hein. Que l'on soit japonais, américain ou noir, hein. Il faut pas se faire d'illusions.
Absolument.
Deuxièmement.
Les virus ne sont pas.
Comment faire pour que ce
genre de problème dit émergent, que si la nature veut émerger, elle n'a qu'à émerger. Mais que ce ne soit pas nous qui émergions à sa place.
Si on peut dire.
Oui, si on peut dire ça comme ça.
Si on peut dire ça comme ça. Oui,
mais parce que sur le continent, il y a les Cubains qui ont envoyé des médecins sur le continent. Mais en Afrique, pourquoi il n'y a pas cette entraide? Soit dit le continent, c'est
la même réponse que tout à l'heure. C'est malheureusement les Africains, je veux dire que, mais sur ce plan de l'image, j'allais dire quelqu'un brutalement a dit l'Afrique n'existe pas.
Mais la solidarité devient un slogan creux sur le continent. C'est un slogan creux, la solidarité. On a toujours dit la solidarité n'est pas, mais en Afrique, c'est un slogan creux parce que.
Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés. Okinwaza, tcha-tcha.
Lucien, il doit faire notre réalisateur, il doit faire exprès, j'espère, ou alors vraiment, il est général.
Il est doué. Bon,
voilà, c'est vrai que ça a tombé à la question dont on vient de parler. Pourquoi les Africains, Hortense indiquait le cas de ce petit pays qu'est Cuba. 10 millions d'habitants, petite île que les Américains veulent avaler depuis 40 ans, ça ne passe pas, ils résistent, ils passent dans la gueule des Américains, ça les embête énormément, et ils sont en quarantaine, ils n'ont pratiquement rien. Ils sont capables d'envoyer des centaines de médecins et infirmiers, personnel médical en tout cas, pour aider les trois pays. Et on disait que même l'Union africaine, Madame Zuma a mis près d'un mois pour parler et mettre, et aller, j'allais dire au foyer du mal. Vous voyez que le problème n'est pas... Le problème est peut-être cette maladie africaine qui est, le volontarisme politique. Et ça, c'est pas dans l'Africain, c'est dans ceux qui gouvernent. Et je parlais de docteur...
Alovor.
Alovor disait tout à l'heure que avec la dérision que cela mérite, maintenant nous avons élu ceux qui prétendent nous gouverner. Le problème est que normalement, quand les ceux qui ont été choisis, élus pour gouverner, quand ils font mal, on devait les changer. Sauf en Afrique. Et c'est... Les deux choses sont liées. Et là, on peut toujours parler, mais on aura du mal à...
Non, il y a des continents, il y a des pays quand même qui émergent. On voit ce qui s'est passé en Tunisie, mais, heureusement.
Pardon, docteur, je voulais... Parce qu'il faut vraiment qu'on ne sorte pas d'ici ensemble une ou deux idées claires sur le sujet. Que peut-il advenir maintenant, docteur? Est-ce qu'il y a des Africains, en Afrique ou ailleurs? On a parlé tout à l'heure de le miracle de laboratoire au Mali, évidemment. Hein. Un médicament. Je crois qu'il faut commencer par le vaccin. Au moins, ça fait que, je rappelle que le vaccin n'empêche pas d'être malade. Le docteur va me le confirmer tout à l'heure. Je ne suis pas, le non-médecin que je suis. Ça n'empêche pas d'être malade. Seulement, ça atténue un peu les effets si on est quand même malade.
Ce qui fait est-ce qu'on peut vacciner quand on est malade? Non, on vaccine avant, ça. C'est préventif,
avant, bien
le
sûr,
vaccin.
La prévention. C'est donc la prévention. Au cas où la
maladie. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore atteints.
On a les chances de s'en sortir. Docteur. Est-ce qu'il y a une idée, un espoir que quelqu'un, même si on souhaite qu'il soit africain, trouve quelque chose au moins pour, j'allais dire, pour apaiser vraiment le terrible, un médecin libéral a dit que c'est comme le feu de brousse. Vraiment, ça va tellement vite, ça envahit tout pour au moins calmer les choses, docteur, pour donner un espoir aux gens. Parce que sans espoir, c'est terrible. On peut même pas vivre.
Bien, pour la question du vaccin, moi, honnêtement, je n'y crois pas.
C'est terrible pour un médecin tout ça, docteur.
Je n'y crois pas. Vraiment. Je préfère être franc jusqu'au bout. Sincère, de manière à ce que l'humanité...
Oui.
Parce qu'il n'y a pas que les vaccins.
Il y a des traitements, des moyens thérapeutiques.
Voilà, il faut trouver un moyen. Moi, j'avais, dès le départ, proposé la destruction des laboratoires P4 à travers toute la planète, de la même manière qu'on a détruit les âmes chimique d'Assad. Il s'agit de projets qui sont sous la direction générale des armées, en France par exemple. Le département du CDC à Atlanta qui s'en occupe dépend de l'armée US. D'ailleurs, Obama n'a pas trahi sa ligne quand il a dit « je vous envoie 4000 militaires pour une épidémie ». Bon, il faut être vraiment obscurantiste pour ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Mais d'autres solutions peuvent être explorées. Pourquoi je ne crois pas au vaccin? C'est que même au CDC, ils ont dit ce que on pouvait suspecter depuis longtemps, nous l'avions déjà publié, à savoir la possibilité de mutation aléatoire du virus, qui fait que les stocks de sérum de rescapés antérieurement mis de côté pour se sauver de ce mal ne servent plus à rien, parce que le virus a muté entre-temps. Comment pouvez-vous créer un vaccin qui va avoir des têtes dirigées contre 395 sérotypes? Ce sera pas efficace. Si vous avez la chance que c'est efficace à 0,01%, c'est que vous avez fait un exploit.
Le vaccin, le virus est devenu plus résistant maintenant.
Ce n'est pas une question de résistance, c'est une question de changement. Il est pire comme un caméléon.
Changer de nature.
Change de nature en permanence. Oui, il change. Parce qu'il est assez simple, in fine. Mettre dans une coque, donc il change d'aspect. Et dans la coque, il dit voilà, en fabriquant des glycoprotéines, dit voilà comment je suis organisé à l'intérieur. Comment vous le savez, regardez les glycoprotéines que j'ai sur ma... C'est-à-dire que sa tenue de camouflage change au gré de ce qu'il y a à l'intérieur. Je me demande si lui-même ne fabrique pas dans sa petite cuisine des choses pour changer d'aspect. Donc c'est un truc qui tourne pour son propre compte. Donc il faut oublier la solution du vaccin et mettre du sérum par-dessus dans le même cas. En revanche, des solutions telles que des mesures de réanimation, des mesures de compensation des troubles biologiques occasionnés à la phase d'état peuvent être considérées. Des mesures de renforcement de l'immunité. Parce que dans toute la virologie humaine, je vais dire soit 3 ou 4 virus ont un virucide. Je peux même les citer.
Oui.
Je pense le virus de l'herpès. Vous savez, le zovirax là, contre les boutons de fièvre.
Oui.
Alors, pareil qu'il est virucide, c'est-à-dire détruit directement le virus. Récemment, on vient de trouver pour l'hépatite C.
Oui, un traitement.
Un traitement. Mais sachez ceci, que c'est uniquement pour une fraction. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas bénéficier de ce traitement.
Parce qu'il est extrêmement cher.
Ce n'est pas une question de cherté. C'est une question d'indication. C'est le génotype 1 ou un truc comme
d'accord.
ça. Voilà. C'est uniquement le génotype 1 qui répond. Donc, si vous dépensez 50 000 euros l'ampoule, enfin l'emploi, le traitement de 3 mois.
90 000 euros.
Non, pas 90, c'est 50 000 euros. J'ai pas dit 90 000. J'ai dit 90 000.
Non, parce que c'est ce que moi j'ai entendu. 90 000.
Ah, oui, parce que si on va à 6 mois, voilà. Mm-hmm. En tout cas, c'est 50 000 euros pour 3 mois de traitement. D'accord. Mm-hmm. Bon, donc on va pas mettre autant d'argent sur quelque chose dont on est sûr que ça va pas répondre au traitement. Mm-hmm. Alors, troisième virus qu'il y a, même pour le HIV, ce n'est pas des virucides, hein. La trithérapie, c'est des produits pour arrêter la réplication virale. Hein, donc, c'est pour ça qu'on dit le virus ne disparaît pas de l'organisme du sujet. Et puis, certainement, un troisième ou quatrième virus aussi, qui a un virucide, entre guillemets. Mais tout le reste, et pourtant, les maladies virales, il y en a. Poison. Certains même qu'on attrape qui n'entraînent aucun signe, mais qui peuvent entraîner des modifications secondaires sous forme d'autres maladies auto-immunes, même la dépression des fois. Certains sérotypes d'herpès peuvent être à l'origine d'une dépression mentale. Vous imaginez ?
Oh là là.
Bien. Mais l'organisme sait se débarrasser tout seul quand son système immunitaire est compétent de n'importe quel virus. D'où nous devons mettre l'accent sur le renforcement de l'immunité. Oui. Et aussi, cette fois-ci, pas pour de l'hygiène, mais des systèmes de décontamination à même de détruire les particules virales d'Ebola, enfin de Marburg virus, en suspension.
C'est ça, ce qui passe d'un individu à l'autre.
Et cette solution nous est proposé par un ingénieur autrichien. Bon, je ne suis pas ici pour faire de la publicité, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent vous contacter et vous me direz, je vous donnerai l'adresse. Vous direz, voilà, personne, c'est le docteur Amaïso qui est le promoteur de ce projet-là. Nous avons envoyé quelques courriers en Afrique, à Madame Zuma et consorts.
Toujours pas de réponse.
Le silence, on n'a pas de réponse. Manifestement, ils ne se sentent pas menacés, donc ils attendent.
Mais bien sûr.
Comment peut-on renforcer son système immunitaire ? C'est valable pour tous les
maladies. Alors, pour renforcer son système immunitaire, c'est simple. Il faut avoir une hygiène de vie, avoir une alimentation. Les anticorps, c'est quoi ? C'est des, des glycoprotéines, lipoprotéines et autres. C'est-à-dire, il faut ces éléments à l'organisme pour pouvoir les fabriquer. Même si vous vaccinez quelqu'un et la personne n'a pas du matériau pour fabriquer des anticorps, c'est ce qu'on appelle une réponse négative malgré la vaccination. Un affamé, un sous-nutri, vous pouvez lui injecter la quantité de doses de vaccin que vous voulez, il ne fabriquera pas d'anticorps. Hein. Voilà. Donc, l'organisme à lui-même sait, quand on lui donne les briques nécessaires, construit son mur de défense. Voilà. Et il y a aussi la vitamine C qui est réputée. Et plein d'autres vitamines. Et aussi des substances qui savent constituer de véritables barrières contre la pénétration de particules étrangères. Comme les acides gras essentiels. Et ça, on trouve ça que dans certains aliments.
Nous pensons nous inviter un jour pour nous faire une émission spéciale à ce sujet.
Non, il faut inviter un nutritionniste.
Ces éléments-là, docteur, on les consomme naturellement, quotidiennement, en vivant ou
On les consomme
on
en
les
vivant.
A naissant.
On les consomme en vivant, mais sauf que notre alimentation est devenue tellement artificialisée que
c'est l'arrière-pensée que j'avais.
Voilà. Voire pauvre même d'ailleurs.
Oui, c'est l'arrière-pensée que j'avais.
C'est pauvre. Nous avons trop de maladies à la fois dues aux conservateurs, les allergies.
Le progrès n'est pas gratuit. Le système immunitaire.
Le progrès n'est pas gratuit. On paye un trop lourd tribut alors que nous sommes sur terre pour jouir et profiter. On s'est compliqué la tâche pour rien. Le bon Dieu ne nous a rien demandé, hein.
Oui,
on vous fait les savants.
La folie humaine a fait tellement qu'on est piégé par soi, on se piège.
Dango revolution, au bout des libertés, Dondo aninde, volando, volando. Oui, c'est beau. Pange unité, noningo, noningo, asapili unité, akavya bunjem, akavinchuwa o.
Voilà, parce qu'on va tirer vers la conclusion là. On va demander une conclusion à Dorta Orlo pour savoir. Et puis avant d'y arriver, je voulais vous indiquer, c'est une sortie qui a un rapport avec ce qu'on vient de dire là sur le, malheureusement la problème africaine et surtout nos problèmes. La conférence est interdisciplinaire d'ailleurs, c'est-à-dire que vous avez là-bas la diaspora, le développement, l'économie, la politique, etc. C'est le 8 novembre, c'est samedi prochain. Samedi prochain, c'est toute la journée, c'est à l'université de Dauphine. Toute la journée, c'est, j'allais dire, c'est assez intéressant parce que les intervenants sont assez variés. Pour dire que moi j'ai assisté à la première journée, c'était vraiment intéressant. Et puis ça fait partie d'un jeune chercheur et ingénieur et médecin africain qui essaie de dire, vous savez, c'est un début de nous, d'essayer de nous prendre en charge. C'est ce que nous dit souvent. Les Africains, vous êtes comme ça parce que souvent, on l'a dit par les hommes politiques, malheureusement, les hommes politiques ont contaminé les populations. Ils disent jamais rien, c'est tout tendre la main, etc. Et laisser les autres faire. On l'a vu là pour le cas de, voilà, c'est les autres qui le font là. Je vous donne un téléphone. Ça s'appelle donc, c'est un peu, la réflexion de fond, c'est sur la résilience. Comment on peut sortir de ce que les quelqu'un a cité là, les drames qui nous sont arrivés depuis à peu près 1000 ans, parce que je compte la traite négrière, l'esclavage arabo-musulman, 9 siècles. Vous y ajoutez ce que les Européens, les Blancs ont fait. Ils ont fait cette dernière partie ensemble. Ça fait quelque chose comme 14 siècles, et qu'on a de la plombe sur la tête. Je veux dire, même les dieux, je suis sûr que même les dieux ne se seraient pas sortis comme ça, sans ce qu'elle. Voilà, c'est, mais cela, c'est un constat que je fais là. Quand on l'a fait, faut pas s'arrêter là, parce que sinon, on est fini. Il faut dire, on va relever les défis. C'est très intéressant. Je vous donne un téléphone. Si vous téléphonez, vous ça, vous inscrivez, ou, voilà, vous renseignez de plus, je vous donne un téléphone. 06. 51 84 63 59. Je recommence. 06 51 84 63 59 pour samedi prochain, toute la journée à l'Université Dauphine. C'est dans le 16e. Je crois que c'est vers le métro Dauphine. Voilà, vous connaissez. Ils vont vous renseigner. Vous allez tomber sur les organisateurs qui sont des gens vraiment qui font ce qu'ils peuvent. Et puis à leurs moyens, parce que c'est même pas payant. Vous dire que c'est vraiment bien comme ça, les initiatives. Voilà.
Moi, je voulais profiter, Paul, pour déjà remercier nos invités. Hein, parce que là, c'est pratiquement la fin. Donc, on va remercier Makaela qui est partie parce qu'il avait d'autres invitations plus tard.
Il avait dit d'ailleurs des départs.
Voilà, tout à fait. Et puis aussi, j'ai dit ma chérie
Tamide.
D'accord.
Tu pourras t'appeler Ali comme ça pour aller plus vite.
Je préfère, bon, Hamid, alors nous te remercions d'avoir accepté notre invitation et puis le docteur Alvor qui aura, comme tu l'as dit tout à l'heure, le dernier mot, Paul.
À moins que docteur. Oui. Tu aies un mot de conclusion, c'est
oui, je vais donner un mot de conclusion et ça rejoint parfaitement. Je pensais parler de Cuba et rendre un hommage à la preuve qu'ils ont administré, comme quoi on peut faire de grandes choses,
bien sûr,
que ce soit dans la culture, la santé, l'éducation,
absolument,
le sport, de très grandes choses, sans des montagnes de milliards,
absolument,
qui nous ont apporté la preuve. Même l'OMS reconnaît que c'est le meilleur système médical au monde. Et c'est des gens qui se baladent à dos d'âne, ou à dos de, ou à cheval,
ou à pied,
ouais, avec leur mallette,
absolument,
ou à bicyclette pour aller soigner des gens. Absolument. Et c'est les meilleurs au monde.
Vous
voyez des médecins généralistes qui arrivent avec leur brosse 4x4, disent, vous savez, monsieur, il y a meilleur que vous qui vient à pied, hein. Et c'est là-bas, dans une petite île, que tout le monde méprise.
Absolument.
Voilà.
Ils se disputent d'ailleurs pour venir sur le
continent. Oui, non, ce sont les meilleurs. Il faut voir comment on forme les étudiants là-bas. C'est des gens très bien.
Parce que.
Il faut éviter de penser qu'on est le nombril du monde.
Absolument,
Il faut s'ouvrir.
Et à la base de cela, il y a une stratégie et le volontarisme politique.
Ouais.
La carence mortelle des Africains, c'est l'absence de volontarisme.
Oui. S'il te plaît, 2 secondes, Paul. Le Cuba vient de nous mettre au point un vaccin contre le palu.
Ce sont 10 millions d'habitants seulement.
Même si ça ne marche pas tout de suite, la voie est ouverte.
À long terme.
Il travaille.
Ça va.
Il réfléchit.
Mais comme tu as parlé de résilience, moi je dis une chose.
Je t'en prie, docteur.
On ne peut pas sortir de ce qui est arrivé au monde noir indemne. Il y a quelque chose qu'on appelle en médecine les syndromes, les séquelles post-traumatiques. Nous sommes un peuple psychologiquement malade, très vulnérable, très fragile. Notre comportement n'est pas celui d'une personne normale. Il faut l'admettre, il ne faut pas avoir honte. Ça se soigne. Nous allons guérir. Absolument. Et quand quelqu'un est
guéri, travailler pour que ça change.
Quand quelqu'un guérit sans soin, ça s'appelle la résilience. Mais avec des soins aussi, on y arrive. Donc il faut le savoir et apprendre qu'on ait conscience.
Merci à tous. Merci. Et à samedi prochain.
Merci.
Et de retour.
C'est tous les samedis de 8h à 10h sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et sur www.rfpp.net.
Forum africain, c'est la politique,
c'est l'économie,
c'est la culture,
c'est les livres,
ce sont les invités
et surtout le débat.
Débat avec vous et avec les invités pour les regards extérieurs par rapport à l'émission.
Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come. Army, they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all done cool down, brother. Police don't go away, army don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trade.
Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trade.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
That is why. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Someone nearly died. Some people lost some bread. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all done cool down, brother. Police don't go away, army don't disappear. Them live sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them live sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
La 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 la. My people say they fear too much. We fear for the thing we know see. For the air around us, we fear to fight for freedom. We fear to fight for liberty. We fear to fight for justice. We fear to fight for happiness. We always get reason to fear. We no one die. We no one wound. We no one quench. We no one go. I get one child. I'm a different house. My party for house. I won't build a house. I don't build a house. I no one quench. I won't enjoy. I no one go. So policeman go slap your face. You no go talk. Army man go weep your ass. You go they look like donkey. Rhodesia they do them own. Our leaders they have for nothing. South Africa they do them home. Them live sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
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 Regular trademark.
Them regular trademark.
That is why. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. That's so. Time when they go. Time no wait for nobody. Like that. But police go they come, army go they come, with confusion, in style, like this. Everybody run, 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 everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all don't cool down, brother. Police don't go away. Army don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
That is why everybody.